Bonjour!
Hello! Comment ça va? Quelle sombre pensée accable notre genre cet après-midi? Quoi? Il n'y a aucune sombre pensée, qu'est-ce que tu racontes? Merci Flo Vaucompte pour ton resub. Merci Pamploum. Merci pour vos abonnements, ça fait plaisir. Ouais. Très content de vous retrouver, les amis, pour une FAQ politique dans l'ambiance la plus chill, comme d'habitude. T'as la voix un peu niquée. Ouais, mais ça, c'est à cause de la clope. Merci Scipio. Merci CS. Merci pour vos resubs. La seule pensée qui puisse nous traverser, c'est celle du chocolat. Putain, ça, putain, tu m'as donné envie de chocolat. Merde, j'en ai pas. Est-ce que le poticha va bien? L'eau poticha va très bien. L'eau poticha, elle est cachée sous mon lit. Elle vit sa meilleure vie. J'ai aussi une moustache pour le Movember. Je m'étais pas rasé depuis 2014, c'est atroce. T'as vu, c'est rigolo, hein? Merci l'hype du train qui déclenche le train de l'hype. Incroyable, bravo. Merci, merci. Elle est passée au lit maintenant, elle a quitté la cuisine. Elle n'a plus accès à la cuisine. Je lui ai fermé la porte de la cuisine, donc maintenant elle peut se cacher sous mon lit, sous mon canapé, sous mes bureaux, dans la cachette qu'elle a derrière. Elle a plein d'endroits. Le jaune te va bien, merci. Merci beaucoup. Non, c'est pas rigolo, c'est atroce. Demain au travail, ça va être compliqué. Mais non, ça va très bien se passer. Y a-t-il une obligation pour un député de démissionner s'il quitte son parti en cours de mandat? Absolument pas. Il a reçu un mandat par les électeurs. Intuitu personae, qui n'a rien à voir avec son parti. Salut Dart. Et bonjour à tous. Bonjour quand même au chat et au chat. Oui, l'eau poticha va bien. Elle va bien, elle se nourrit bien, tout ça. Je rêve que cette semaine de 4 jours devienne la norme, bordel. Ah putain, c'est vrai que c'est férié aujourd'hui. J'ai oublié ça. C'est vrai que c'est férié. Le stream du jour férié. Ça fait du bien. On est plus chill. Est-ce que c'est la mort du mouvement du Printemps Républicain? Le Printemps Républicain est une association qui a été créée en 2016-2017, je crois, dans ces eaux-là. Ultra laïcard. Et l'un de ses anciens représentants, comment il s'appelle? El Khatmi, est en train plus ou moins de rejoindre le Rassemblement National. Apparemment, il y aurait des discussions pour qu'éventuellement il soit sur la liste aux européennes. J'espère qu'on te paye plus pour un travail un jour férié. Bah, hésite pas à t'abonner, hein. Hésite pas à t'abonner, je serai payé plus. Merci pour ton abonnement par avance. C'est quoi une Europe fédérale? Une Europe fédérale, ce serait un État européen qui serait doté des compétences d'un État et qui fédérerait des États. C'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi la France ne prend pas la même position que la Bolivie concernant le conflit israélo-palestinien? Parce que la France ne s'aligne jamais sur la Bolivie en matière internationale. Ça n'a jamais été le cas. Pourquoi la Bolivie particulièrement d'ailleurs? 5 ans après le début du mouvement, que reste-t-il des Gilets jaunes? Leur mécontentement s'est-il fait entendre dans les urnes? Bah non, le mouvement des Gilets jaunes, il avait une particularité, une spécificité, c'est qu'il refusait de s'organiser de manière à ressembler à un mouvement politique. Le mouvement des Gilets jaunes est resté un mouvement de contestation, réclamant pêle-mêle la démission d'Emmanuel Macron et la création d'un référendum d'initiative citoyenne. Mais le mouvement des Gilets jaunes ne s'est pas traduit dans les urnes. Les rares personnes qui se sont revendiquées du mouvement des Gilets jaunes n'ont pas fait des bons scores aux élections, que ce soit les élections municipales de 2020, les élections européennes de 2019. Donc le mouvement des Gilets jaunes n'est pas un mouvement qui a une traduction électorale. Ce n'est pas non plus un mouvement syndical. Est-ce que le 49-3 peut être utilisé pour des lois organiques ou constitutionnelles? Non. Merci Mister Fraise pour ton raid, bienvenue à tes viewers, enchanté. Installez-vous confortablement, on vient de commencer. Qu'est-ce que tu disais? Est-ce que le 49.3 peut être utilisé pour des lois organiques ou constitutionnelles? Non. Les lois organiques et les lois constitutionnelles doivent être adoptées dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est quoi la différence entre une loi organique et une loi ordinaire? Une loi organique, c'est une loi structurante des pouvoirs publics. C'est la Constitution donne des règles générales et la Constitution renvoie vers des lois organiques qui doivent être discutées après pour préciser l'application et l'organisation. Donc on a des lois organiques, ce sont des lois cadres, ce sont des lois structurantes qui organisent les pouvoirs publics, qui organisent la méthodologie du travail. Par exemple, il y a une loi organique qui explique comment est-ce qu'on doit examiner le budget. Il y a un certain nombre de principes budgétaires qui s'applique sur la méthodologie à adopter par le gouvernement et par le Parlement pour examiner le budget. C'est un exemple. Ça s'appelle la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, bien connue des étudiants en droit. Et une loi organique, c'est un petit peu plus compliqué à adopter qu'une loi ordinaire. C'est une loi plus importante. Et une loi organique, on la vote pas tous les 4 matins, alors qu'une loi ordinaire, on peut. Est-ce que la réforme des retraites est liée à l'Union européenne? Non, la réforme des retraites n'est pas liée à l'Union européenne. En cas de second tour, Jean-Luc Mélenchon, Le Pen, est-ce que le parti macroniste s'abstient? J'en sais rien, je sais pas du tout. C'est une bonne question. Je sais pas du tout ce que feraient les macronistes si jamais il y avait un second tour. Si jamais il y avait un second tour, Le Pen, Mélenchon. Salut, je débarque sur tes chaînes Twitch et YouTube, j'apprends à te connaître. Eh bien, bienvenue à toi, installe-toi confortablement. Bienvenue, bienvenue. C'est nul si on ne peut pas étudier le budget de la façon qu'on souhaite. Mais c'est la façon qu'on souhaite puisqu'on a adopté une loi. Si on veut modifier les règles d'examen du budget, alors on doit modifier la loi. La loi, elle donne les règles du jeu. Mais elle ne détermine pas le jeu. Revenir sur la réforme des retraites, est-ce que c'est vraiment possible par un autre président? Oui. Un autre président de la République, une autre majorité peut modifier les règles du droit à la retraite. C'est complètement possible. Enfin, c'est possible d'un point de vue légal. Après, est-ce que c'est souhaitable? Ça, c'est un débat politique. Est-ce que c'est économiquement viable? Ça, c'est un deuxième débat politique. Est-ce que tu peux réexpliquer le contexte historique du conflit entre Israël, le Hamas et la Palestine? Non, non, je ne peux pas vous expliquer 75 ans de conflit dans une zone aussi tendue que l'Israël et la Palestine. Je peux pas me lancer comme ça a cappella dans un exercice d'explication sur 70 ans de conflit aussi structurant. Il y a des documentaires, si tu veux, qui sont très bien faits et qui expliquent ça. Il y a des articles de journaux aussi qui tentent de donner des éléments d'explication et d'analyse. Pourquoi les banques refusent de prêter à certains partis, comme récemment le RN qui demande à ses électeurs? Les banques sont libres de donner crédit à leurs clients et les banques sont libres de refuser des clients. C'est pas lié à certains partis, c'est lié aussi à des particuliers. Une banque peut vous refuser un crédit. Personne n'a l'obligation de vous prêter de l'argent. Et en l'occurrence, il y a des banques qui ne veulent pas prêter au Rassemblement national, soit pour des raisons politiques, parce que les banques sont en désaccord avec le message porté par le Rassemblement national, soit pour des raisons financières, parce qu'ils estiment que le Rassemblement national ne parviendra pas à rembourser. Et d'ailleurs, sur ce point-là, il y avait une proposition qui avait été faite en 2017 par François Bayrou de créer une banque publique de la vie politique, chargé de prêter de l'argent aux partis pour éviter que les partis aient besoin d'aller chercher de l'argent soit à l'étranger, c'était le cas du RN qui allait se financer en Russie, soit même en France auprès des banques avec le risque que les banques refusent. Je ne sais pas où en est cette proposition d'ailleurs, je crois qu'elle a été enterrée depuis. C'est aussi pour des raisons d'image. Oui, c'est sans doute pour des raisons d'image aussi, ouais. Pourquoi es-tu attaché à la démocratie interne au parti alors que ça crée une guerre de courants intestines? Eh bien parce qu'indépendamment de ce défaut, je considère qu'il y a plus de qualité à avoir une démocratie interne dans une organisation. Moi, je suis un démocrate, hein. Je suis un démocrate partout. C'est pas, j'arrête pas les valeurs de la démocratie que je souhaite, que à titre personnel je défends. Juste parce que ça crée du débat. Moi, je préfère qu'il y ait du débat plutôt qu'il n'y en ait pas. À choisir. Mais encore une fois, personne ne me demande mon avis. Je ne suis pas adhérent des partis politiques. Je suis adhérent d'aucun parti politique. Et je ne suis pas adhérent des partis politiques qui n'ont pas de démocratie interne. C'est leur problème interne, ça les regarde. Les prêts garantis par l'État, c'est quoi? Eh ben les prêts garantis par l'État, comme son nom l'indique, c'est l'État qui se porte garant pour le prêteur. Quand un client va voir une banque et lui demande un crédit, le client prend un risque. Il a le risque que la banque, pardon, prend un risque. Elle a un risque que le client ne rembourse pas son prêt. Du coup, tu peux avoir des garants. Par exemple, quand tu signes un contrat de bail pour louer un appartement, tu peux avoir un garant, en général c'est les parents pour les étudiants par exemple, qui se portent garant. Ça veut dire que si jamais l'étudiant n'arrive plus à payer son loyer, le garant a l'obligation contractuelle de payer à sa place. Et ben, l'État peut se porter garant pour des prêts. Et ça aide à l'obtention du prêt auprès d'une banque qui, s'il n'y avait pas eu l'État, il n'aurait peut-être pas prêté l'argent, parce qu'il a trop peur de ne pas retrouver son pognon. Et bien, l'État peut se porter garant, et donc il y a des prêts garantis par l'État, il y a des PGE, prêts garantis par l'État, qui ont été créés, notamment après le Covid, pour soutenir les entreprises et pour les aider à passer le cap de cette passe difficile. Du coup, la démocratie en entreprise aussi pour toi, décision prise par les employés. Ah, moi, oui, j'aime bien quand il y a de la démocratie, y compris dans l'entreprise. J'aime bien quand il y a des représentants des salariés qui siègent dans les organes de direction. Enfin, j'aime bien. À choisir. Je préfère qu'une entreprise ait un fonctionnement plus démocratique plutôt qu'une entreprise qui n'a pas de fonctionnement démocratique. Mais c'est très philosophique, dit comme ça, il faudrait voir en l'espèce, ça dépend de l'entreprise. Ne trouves-tu pas que les guerres internes et de facto les primaires font émerger les candidats les moins clivants et de ce fait les plus mous au changement? Bah ça, c'est un point de vue. Ça dépend ce que tu regardes comme primaire. Je pense pas que Benoît Hamon était la personne la moins clivante pour le Parti socialiste en 2017. Benoît Hamon, c'était un frondeur, il faisait pas consensus. Je pense pas que Ségolène Royal en 2006, elle représentait une gauche plus molle que Laurent Fabius ou Dominique Strauss-Kahn. À part en 2006, ici, si, en 2006. Fillon 2017, pareil. Pareil, François Fillon n'était pas le plus mou des candidats à la primaire de 2017. C'est vrai. Avec l'image que donne le gouvernement actuel à la France insoumise disant qu'ils sont exclus de l'arc républicain, est-ce qu'un futur candidat LFI au présidentiel n'aurait pas de difficulté pour obtenir le nombre de signatures requis pour se présenter? Si c'est possible, alors les signatures, les parrainages pour devenir candidat à une élection présidentielle, c'est une condition obligatoire pour pouvoir se présenter à l'élection. Il faut en avoir 500 minimum. Et la France insoumise, alors les gens qui peuvent parrainer, ce sont pour la plupart des grands électeurs ou des élus locaux. Conseillers municipaux, enfin c'est surtout les maires, conseillers régionaux, conseillers départementaux, députés, etc. Et la France insoumise n'a pas une assise électorale locale suffisamment forte pour pouvoir ne pas avoir d'inquiétude. Après, il y a d'autres partis qui ont peu d'assises locales et qui réussissent à avoir les 500 signatures. Lutte ouvrière, par exemple, c'est un exemple, c'est un parti qui n'a pas beaucoup d'élus locaux, mais ils arrivent chaque élection présidentielle à avoir 500 signatures. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, mais ils finissent par y arriver. Éric Zemmour, pareil, Éric Zemmour n'a pas d'assises locales, il a créé son parti, il a réussi à avoir les 500 signatures. Ça sert à quoi les 500 signatures en fait? Les 500 signatures, ça sert à éviter les candidatures farfelues. On a créé des conditions de manière à avoir des candidats qui sont soutenus par un minimum d'élus pour créer une barrière à l'entrée, pour permettre d'avoir des élections avec pas trop de candidats. Bonjour, ça y est, on a le droit au revenu universel maintenant. Je ne sais pas qui t'a dit ça, mais il t'a menti. Non, le revenu universel n'existe pas. Il n'y a pas de revenu universel en France. Et pas plus maintenant qu'hier. Merci Nanju pour ton resub. Merci Château Lardon. Merci JC. Merci Mister Oops. Excusez-moi, je ne vous ai pas remercié tout à l'heure. Merci pour vos resubs. Un candidat élu peut-il parrainer sa propre candidature? Oui, je crois. Je crois qu'un candidat qui serait député, par exemple, pourrait se parrainer lui-même. Mais bon, c'est une signature sur 500. Le RSA, c'est pas un revenu universel. Non, le RSA n'est pas un revenu universel. Le RSA est une allocation minimum versée sous condition de ressources aux personnes qui en font la demande. Le RSA n'est pas universellement versé. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez ne pas être éligible au RSA. Il y a des conditions pour obtenir le RSA. Ce n'est donc pas un revenu universel. Est-ce que c'est possible de donner sa signature pour plusieurs potentiels candidats? Non. Les personnes qui ont la possibilité de parrainer un candidat à l'élection présidentielle ne peuvent parrainer qu'un seul candidat. Tu ne peux pas parrainer plusieurs candidats. Les députés ne peuvent pas parrainer si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, les députés peuvent parrainer. Regarde, on peut retrouver. On peut retrouver les parrainages. Qui peut parrainer un candidat à la présidentielle? Hop, sur le site internet du Conseil constitutionnel. Voilà la liste des gens qui peuvent parrainer. Je crois que, de mémoire, je crois que c'est 150 000 personnes au total sur un pays de 65 millions d'habitants. Les membres du Parlement, députés ou sénateurs, les membres d'un conseil régional, les membres de l'Assemblée de Corse, les membres d'un conseil départemental. On va regarder les trucs où il y a le plus de monde. On va laisser tomber le dos. Donc le Parlement, Conseil régional, Conseil départemental. Les maires. Il y a 36 000 maires en France. Ça fait beaucoup. Membres du Parlement européen. Voilà, pour les plus importants, c'est ça. Après, les autres, ils sont pas très nombreux, mais ils sont quand même dans la liste. Est-ce qu'on peut connaître qui a parrainé qui? Absolument. Hop. On peut retrouver les listes, c'est public, mais alors c'est où? Tous les parrainages validés. Voilà, tu peux le télécharger. J'ai peut-être pas téléchargé le bon format. Je sais plus quels sont les bons formats. Ah non, le JSON, non, c'est pas ouf. Bon, j'ai pas la mise en page, parce que j'ai pas le bon logiciel, mais tu as les noms. Si t'as un bon logiciel pour le lire, tu as tous les noms de tous les parrains, de tous les candidats. Le XLSX pour Excel. Ah ouais, non, mais j'ai pas Excel sur cet ordi. C'est pas grave. Bon, bref, tout ça pour répondre à ta question. Oui, on peut connaître le nom des parrains de chacun des candidats. Et pas que le nom, là où ils sont élus, etc. Selon toi, quelle solution à l'abstention électorale massive des populations défavorisées? C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut résumer l'abstention à un problème qui aurait une solution? Je suis pas technosolutionniste. Je crois pas aux solutions techniques. Je pense que le problème de l'abstention est un problème structurel d'une démocratie représentative qui ne satisfait pas les électeurs. Si les électeurs boudent les élections, c'est pas pour des raisons d'inaccessibilité, c'est pour des raisons politiques. C'est parce qu'ils ont l'impression que ça ne leur parle pas, que de toute façon que les candidats se valent tous, et parce qu'ils n'ont pas confiance. Mais je pense pas qu'il y ait de solution à apporter magiquement, quoi. Ce qui fait voter les gens, c'est l'envie. Et il faut que des candidats réussissent à leur donner envie. Mon maire n'est pas dans la liste, il n'a parrainé personne. Si ton maire n'est pas dans la liste, c'est qu'effectivement, il n'a pas parrainé de candidat. Il y a beaucoup de maires qui refusent de parrainer des candidats. Au cours des divers mandats, n'y a-t-il pas eu des personnalités politiques de plus en plus déconnectées de la réalité du terrain? Ça, c'est une question de point de vue. Tu peux pas objectivement dire que machin est déconnecté ou que machin est mieux connecté. Crois-tu que les réformes sociales promises par les partis de gauche aux européennes ont des chances d'advenir, même en cas de majorité absolue au Parlement européen? Ah bah, si les gauches européennes arrivent à avoir une majorité au Parlement européen, alors ils auront un poids dans la négociation vis-à-vis des priorités de la Commission européenne, vis-à-vis des négociations dans les trilogues, etc. Donc oui. Si t'es majoritaire au Parlement européen, tu as plus de poids. Après, t'es pas tout seul. C'est une négociation qui s'engage avec la Commission et avec le Conseil. Beaucoup d'élus sont contre la transparence du parrainage. Il y a des élus qui, effectivement, n'aiment pas parrainer des candidats à la présidentielle parce que, comme c'est transparent, les électeurs peuvent voir qui leur maire a parrainé et il y a des électeurs qui peuvent être mécontents du parrainage qui a été accordé par leur maire. Et donc, il y a des maires qui demandent à ce que ça devienne anonyme. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas anonyme. On doit pouvoir. C'est un acte transparent. On peut pas accepter que des maires parrainent des candidats à la présidentielle en catimini. Les électeurs ont le droit de savoir qui leur maire a parrainé. La politique spectacle m'a définitivement convaincu de ne plus jamais voter. Je ne veux plus être caution de cette mascarade électorale. Je comprends ce que tu exprimes, c'est exactement ce qu'expriment beaucoup d'abstentionnistes. Après, je sais pas si on peut parler de mascarade, le président de la République Emmanuel Macron, en ce moment, il a le pouvoir, hein. Il applique son pouvoir, il applique son programme. On peut pas dire qu'il n'applique pas, on peut pas dire qu'il ne met pas en œuvre une politique. Qu'on soit d'accord avec cette politique ou pas. Au demeurant, si on est en désaccord avec la politique du président, c'est qu'on est déjà d'accord pour dire qu'il applique sa politique, qu'il applique une politique. Ça sert à quoi les parrainages à la base? C'était pour préserver un entre-soi ou pour protéger les dérives? Non, c'était pour protéger les dérives. Les parrainages, ça sert à deux choses. Ça sert d'abord à éviter les candidatures farfelues, c'est-à-dire qu'une personne qui ne représente rien, qui se présenterait à la présidentielle et qui bénéficierait du coup de l'audience offerte par une campagne présidentielle. Donc c'est pour éviter les effets d'opportunité. Et d'autre part, c'est aussi pour assurer une représentation territoriale. Les parrainages que vous devez avoir doivent représenter une diversité territoriale. Ça sert à éviter les candidats régionalistes, indépendantistes, qui ne viendraient profiter de l'élection présidentielle que pour défendre des thèmes d'une seule région. Comme la présidentielle est une élection nationale qui permet l'élection d'un président de la République ou d'une présidente de la République, alors on demande aux candidats qu'ils aient une assise sur une diversité de territoires. Donc voilà. Salut Jean, j'aimerais savoir s'il y a déjà eu des essais de vote de décision sur des sujets collectifs via smartphone. Non, il n'y a pas eu d'expérimentation au niveau local. Alors si, il existe des éléments de démocratie participative, il y a des consultations qui peuvent se faire sur des applications en ligne. Par exemple, à Paris, il y a le budget participatif où sur Internet, les Parisiens peuvent voter pour accorder des crédits, de l'argent à des projets. Alors est-ce que c'est uniquement via smartphone? Non, parce que c'est aussi sur Internet. Mais ça fait partie des choses que beaucoup de personnes veulent expérimenter. Pour jouer le complotiste, est-ce qu'il serait possible de truquer une élection présidentielle avec une technologie alien? J'en sais rien. À la suite de la motion de censure, est-ce que c'est uniquement le gouvernement qui doit être modifié ou l'Assemblée aussi? Non, c'est uniquement le gouvernement. Une motion de censure, si elle est adoptée, c'est le gouvernement qui est obligé de présenter sa démission. Le président de la République peut être amené à dissoudre l'Assemblée nationale si jamais il ne parvenait pas à trouver, à dégager une majorité parmi les députés qui ont voté la motion de censure. Une dissolution, je rappelle que c'est rien d'autre que l'organisation de nouvelles élections. Faut pas voir le côté dissolution, faut voir le côté organisation de la suite. Une dissolution, c'est l'organisation de nouvelles élections. Bonjour Jean, j'ai entendu plus tôt dans le live parler d'Europe fédérale. Penses-tu que c'est possible et comment ça fonctionnerait? Alors, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr que c'est possible. C'est pas impossible qu'un traité international crée une Europe fédérale. À quoi ça ressemblerait? Ça, j'en sais rien. Ça, je sais pas du tout. Ça doit faire l'objet d'une discussion, d'un débat. Pour l'instant, on parle dans le vent, puisqu'il n'y a pas de proposition sur la table de fédéralisme européen. Il y a des propositions d'intégration européenne. Intégration, ça veut dire de délégation de davantage de responsabilités des États membres vers les institutions de l'Union européenne. Mais je sais pas. Pour l'instant, c'est très virtuel. Il existe un parti politique européen fédéraliste. Ça existe. Il y a un parti fédéraliste. C'est un parti qui propose un certain type de fédération européenne où les États deviendraient des États fédérés d'un super État européen. Mais je peux pas te dire à quoi ça ressemblerait. C'est comme si tu me demandais à quoi ressemblerait la 6ème République. J'en sais rien. On verra quand elle sera là, on verra quand il y aura un débat, quand il y aura une proposition. Est-ce que le président peut dissoudre le Sénat? Non, le Sénat ne peut pas être le Sénat ne peut pas être dissous par le président. Le président de la République n'a pas la main sur le Sénat. Le gouvernement n'est responsable que devant l'Assemblée nationale, pas devant le Sénat. Et en répercussion, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale, mais pas le Sénat. Est-ce que ça ressemblerait aux États-Unis? Ça pourrait. Les États-Unis sont un État fédéral. Après, l'Union européenne est une organisation sui generis, comme on dit pour se la péter. Ça veut dire que c'est une organisation de son propre genre. On ne peut pas comparer l'Union européenne à d'autres éléments internationaux qui existeraient dans le monde. Il n'y a qu'en Europe que ça existe et ça n'a jamais existé autrement. Donc si une Europe fédérale existait un jour, il faudrait qu'elle invente elle-même sa propre manière de créer une fédération. Le Sénat sert à quoi concrètement? Le Sénat participe avec les députés à l'écriture de la loi. Les Sénats ont la même responsabilité que les députés, les sénateurs contrôlent l'action du gouvernement, les sénateurs votent des lois et élaborent l'écriture des lois en lien avec l'Assemblée nationale dans le cadre d'un aller-retour qu'on appelle une navette. Ok? Le Sénat est différent de l'Assemblée nationale puisque le Sénat représente les territoires. Les députés élus à l'Assemblée nationale sont des élus en circonscription au scrutin majoritaire, uninominal à deux tours, pour se la péter encore une fois. Mais bref, c'est des élections. Mais les députés représentent l'ensemble de la nation. Les sénateurs sont des représentants de leur territoire. Ils sont élus par des élus locaux. Et chose importante, le Sénat est décorrélé du rythme de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale se joue tous les 5 ans en lien avec l'élection présidentielle. Inversion du calendrier législatif ou pas. Donc l'Assemblée nationale bouge en fonction des séquences politiques du moment. Le Sénat, lui, est décorrélé. Le Sénat, il est décorrélé. C'est une élection qui n'est pas tous les 5 ans, mais tous les 3 ans. Et c'est une élection qui ne renouvelle le Sénat que par moitié. Donc le Sénat ne peut pas virer de bord d'un seul coup parce que les élus locaux en auraient décidé. C'est volontairement une chambre qui a plus de lenteur pour résister justement aux effets du temps. C'est ça le Sénat. Merci pour l'expression sui generis, c'est la première fois que je l'entends. Et bah tu pourras le mettre dans tes copies de droit européen. L'Union européenne est une organisation internationale sui generis. Est-ce que ça veut dire que le Sénat restera toujours à droite? Non, le Sénat ne restera pas toujours à droite. D'ailleurs, il a déjà été à gauche pendant quelques années, en 2010-2014. Je sais plus dans ces eaux-là. Bah non, c'était 2011 du coup. 2011-2014. Et par ailleurs, le Sénat est à l'échelle de ses élus, de ses électeurs, et les électeurs qui votent pour les élections sénatoriales, ce sont les élus locaux, notamment les maires. Or, il y a beaucoup, 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 beaucoup de maires de petites communes rurales. Et il se trouve que les maires de petites communes rurales votent plus à droite qu'à gauche. Ça veut dire qu'un gouvernement d'extrême droite ne pourrait rien faire au gouvernement vu que le Sénat existe. Et non, au contraire. Le Sénat ne peut pas être une est une institution qui ne peut pas être bloquante. Le Sénat n'a pas de droit de veto. S'il y a un désaccord sur les lois, alors c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Donc si vous êtes un président de gauche avec une majorité de gauche à l'Assemblée, vous pouvez gouverner le pays. Vous n'avez pas le Sénat avec vous, mais c'est pas grave. Il n'y a pas besoin du Sénat pour gouverner le pays. Pareil, si vous êtes un président d'extrême droite et que vous avez une majorité d'extrême droite avec vous à l'Assemblée, vous pouvez mettre en place votre programme d'extrême droite. Le Sénat ne peut pas le bloquer. Est-ce qu'il n'y a pas une surreprésentation de l'avis de la population rurale au Sénat du coup? Alors ça, c'est un point de vue. Rappelez-vous l'émission Backseat il y a un mois, on avait reçu des sénateurs sur le plateau et on avait un sénateur élu dans une grande ville, à Paris en l'occurrence, qui lui regrettait effectivement qu'il y ait trop de représentation des territoires ruraux. Il y a une disproportion de la représentation des territoires ruraux par rapport aux territoires urbains à l'Assemblée nationale. Donc le Sénat est une chambre consultative. C'est pratiquement une chambre consultative, le Sénat. Ça ne l'est pas parce qu'en réalité, le Sénat obligatoirement examine les lois et propose des modifications. Mais c'est pas comme le CESE. Le Conseil économique, social et environnemental, c'est encore une autre organisation, une autre institution, pardon, qui, elle, est purement consultative. Ça, c'est parce que c'est parce qu'il vote à droite que ça emmerde. En l'occurrence, le député dont je parle, c'était qui déjà? C'était Jean-Marie Charon? Je sais plus. Le sénateur, pardon, dont je parle, c'était un sénateur de Paris, Les Républicains. Donc c'est un sénateur de droite. Il avait beau être de droite, il trouvait quand même qu'il y avait trop de représentation du territoire ruraux au Sénat. Tu vois, comme quoi. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt que le Sénat soit élu comme l'AN et que l'AN soit proportionnelle? Bah non. Ça sert à rien d'avoir deux chambres qui sont un mimétisme l'un de l'autre. Il ne faut pas aligner les deux chambres du Parlement sur le même méthode, sur la même méthode d'élection, sinon autant avoir une seule chambre, ça revient au même. Si le Sénat n'est pas bloquant, quel est son rôle? C'est pas parce que vous ne pouvez pas bloquer que vous n'avez pas de pouvoir. Il y a d'autres types de pouvoir. Le pouvoir de blocage n'est pas le seul qui existe. Le Sénat a une possibilité d'améliorer l'écriture des lois en votant des amendements, en modifiant les projets et les propositions de loi pour qu'elles soient mieux écrites. Le Sénat s'enorgueillit d'avoir 70% de ses amendements qui sont conservés dans la version finale. Prenez, par exemple, l'écriture d'un document Word. OK? Quelqu'un va écrire une première version du document et va l'envoyer à quelqu'un d'autre en lui disant: est-ce que tu peux faire des corrections s'il te plaît? Enfin, tu as la possibilité de faire des corrections. Par contre, c'est moi qui décide à la fin. L'autre, il dit: ok, bah, je vais faire des corrections. Il prend le papier, il fait des suivis de modifications sur le document Word, il propose des modifications, ensuite il renvoie à la personne en disant: voici mes modifications, qu'est-ce que t'en penses? Le mec, il clique pour accepter ou refuser les propositions de modification. Et à la fin, il accepte 70% des propositions de modification. Est-ce que ça veut dire que la deuxième personne était inutile? Non, elle n'était pas inutile. La preuve, il y a 70% de ses propositions qui sont dans le texte final. Donc c'est la preuve qu'il a servi à quelque chose. Si vraiment il était inutile, alors zéro de ses propositions de modification aurait été acceptée. Et bien le Sénat, c'est à peu près pareil. Là, ils acceptent parce qu'ils sont du même bord politique. Non, non. Non, non, pas particulièrement. Non, non, c'est même pas particulièrement. D'ailleurs, ils sont pas du même bord politique. Il y a un groupe au Sénat qui représente la majorité présidentielle de l'Assemblée nationale, enfin qui représente Renaissance, mais ils sont pas majoritaires et ils sont pas au pouvoir. Au Sénat, pour l'instant, c'est une majorité, les Républicains. Il y a combien de sénateurs? 340 et des brouettes. 348. Est-ce que ça sert aussi de maison de retraite quand la carrière politique est finie, Georges Jadot? Non. Alors, si, ça l'a été pendant longtemps. Le Sénat était effectivement considéré avec mépris comme une chambre de vieillards où on envoyait finir des carrières des personnalités politiques. Mais c'est en train de changer. Il y a de plus en plus de jeunes au Sénat, il y a de plus en plus de femmes, il y a de plus en plus de personnalités différentes. Et il n'y a pas que des fins de carrière. Si vous voulez un exemple, il y a un mec qui s'appelle Jean-Luc M., un responsable politique français célèbre du début du XXIe siècle, qui a été sénateur pendant 20 ans et qui ensuite a continué sa vie en redevenant député, en étant chef d'un parti politique, en étant candidat à l'élection présidentielle. Bref, Jean-Luc Mélenchon, c'est la preuve vivante qu'il n'y a pas que des fins de carrière au Sénat. C'est le Conseil d'État qui prend les fins de carrière. Le Conseil d'État n'est pas une institution dans laquelle les hommes politiques finissent leur carrière, parce que pour être membre du Conseil d'État, c'est sur concours, c'est pas une élection. Les sénateurs, c'est une élection, alors que le Conseil d'État, ça n'a rien à voir, ce sont des magistrats. Les commissions d'enquête ne servent à rien, c'est juste du vent, de l'esbrouf, la justice ne suit jamais derrière. Il n'y a qu'à voir pour Schiappa. Mais si, les commissions d'enquête parlementaires sont hyper utiles. Justement, quand je vous dis que l'Assemblée nationale et le Sénat servent à contrôler l'action du gouvernement, l'une des manières de contrôler l'action du gouvernement, c'est effectivement de déclencher des commissions d'enquête. Une commission d'enquête, c'est un groupe de travail composé à la proportion des représentants de l'Assemblée ou du Sénat qui mène un travail d'enquête pour élaborer des recommandations. Et ces recommandations, elles sont suivies ensuite dans des projets de loi. Attention, une commission d'enquête n'est pas une commission de justice. Ce n'est pas la justice, les commissions d'enquête. La justice, le procureur, peut se saisir des conclusions d'une commission d'enquête pour alimenter son enquête à lui, mais une enquête judiciaire cette fois-ci. Est-ce que c'est le président qui nomme le Conseil constitutionnel? Non, le Conseil constitutionnel, il est composé de 9 membres qui sont nommés par le président de la République pour 3 d'entre eux, par le président de l'Assemblée nationale pour 3 d'entre eux et par le président du Sénat pour 3 d'entre eux. 3 fois 3, ça fait 9. Donc c'est pas le président de la République tout seul qui désigne les membres du Conseil constitutionnel. Est-ce que tu penses pas que c'est trop compliqué? J'ai la sensation que la grande majorité n'y comprend rien à ce système de fonctionnement. C'est une bonne question. Est-ce que c'est trop compliqué? Déjà, est-ce que ça a vocation à être simple? On va se poser la question dans l'autre sens. Est-ce que un bon fonctionnement d'une démocratie, c'est nécessairement un fonctionnement simple. Moi, je suis pas persuadé. À partir du moment où on met comme principe des principes d'équilibre des pouvoirs, des principes de fonctionnement et d'efficacité de l'exercice du pouvoir, des principes de transparence, etc., bah, c'est pas absurde qu'on obtienne un mode de fonctionnement compliqué à comprendre. Mais le but, c'est pas qu'il soit simple. Le but, c'est qu'il remplisse les conditions qu'on lui donne. Pour le dire plus vulgairement, une monarchie absolue de droit divin, c'est très simple. C'est très simple. Il y a un roi, voilà. Fin de la discussion. Bon, on peut rentrer un peu dans le détail, il y a un conseil des ministres, il y a un conseil d'État, bon. Mais fondamentalement, c'est facile. Maintenant, je repose la question, est-ce que c'est souhaitable? Disons qu'après 2 siècles et demi d'hésitation, les Français ont répondu à la question, hein. Mais ceci étant, je t'accorde le fait que le fonctionnement de nos institutions, c'est quelque chose d'assez complexe et que malheureusement, ça rebute beaucoup de citoyens de s'intéresser à la politique parce que c'est trop compliqué. Et le problème que ça crée, c'est que ça fabrique un paysage politique qui n'est peuplé que de gens qui ont fait des études. Pour. Et ça, c'est un problème en démocratie. Moi, je ne suis pas pour que seules les personnes qui ont fait Sciences Po et l'ENA soient aptes à comprendre le fonctionnement des institutions et à en discuter. Le problème, c'est plus que le système n'est pas assez participatif pour moi. Je suis d'accord avec toi, notre système politique, c'est une démocratie représentative à la papa, qui fonctionnait bien dans une logique du XXe siècle, à l'époque où il n'y avait que la télé et la radio. Mais en ce début du XXIe siècle, on a des aspirations populaires à la démocratie participative, à l'implication des citoyens, mais tu m'accorderas que ça ne rajoute pas de la simplicité. Ce qu'on est en train d'inventer là, petit à petit, bon, trop lentement à mon goût, mais peu importe, ce qu'on est en train d'inventer, c'est des modalités de participation citoyenne. Les budgets participatifs dont j'ai parlé, les comptes rendus de mandat des députés, les tirages au sort pour les conventions citoyennes, le grand débat national, toutes ces expérimentations ne font que rajouter une couche de complexité. Mais c'est une touche de complexité qui va dans le sens de plus de participation. Donc moi, en ce qui me concerne, je suis plutôt pour. Je dis, bah, tant mieux, je préfère ça. Ok, c'est moins facile à comprendre, mais au moins, il y a des possibilités, même si elles ne sont pas extraordinaires, il y a des possibilités de participer. Je suis pas d'accord, je trouve qu'aujourd'hui il y a beaucoup de politiques qui n'ont pas étudié la politique. Et moi je trouve que c'est très bien. Justement, les élus du peuple, je ne veux pas que ce soit des extraterrestres complètement déconnectés du peuple. Je préfère un élu qui n'y connaît pas grand-chose à la politique, mais qui connaît très très bien la vie des gens, plutôt qu'un élu qui est un technocrate sorti de l'ENA, qui sait très très bien comment marche la machine, mais qui est complètement déconnecté de la population. À choisir, je préfère ça. Y a des référendums d'initiative partagée, mais les conditions sont beaucoup, beaucoup trop restrictives. Et ça fait partie des choses que Emmanuel Macron veut changer dans la Constitution, abaisser le seuil du nombre de signatures pour la pétition pour déclencher un référendum d'initiative partagée. Un élu qui ne sait pas comment marche la machine ne peut pas faire avancer ses projets. Je ne suis pas d'accord avec toi, parce qu'un élu, il peut s'entourer de personnes qui savent comment marche la machine. C'est pour ça qu'on a créé des collaborateurs de cabinet. Un collaborateur, c'est une personne qui est plus techniquement apte à traduire la volonté politique de son élu dans le circuit administrativo-technique de la machine. Quand tu viens du peuple, il te faut un moment pour comprendre le fonctionnement de l'intérieur, c'est pas facile et c'est usant. Masseglia, qui est dans le chat, c'est un député. Effectivement, Denis de son prénom. Denis n'est pas un spécialiste de la politique. Il a été élu député en 2017 pour la première fois. Il n'a pas fait l'ENA, il n'a pas fait Sciences Po, il ne savait pas comment fonctionnait la machine. Il en avait. Bon, il a regardé mes vidéos, donc il voyait à peu près, mais. Eh ben, qu'est-ce qu'il a fait, Denis? Il a embauché des collaborateurs et des collaboratrices pour l'accompagner dans son mandat et pour traduire sa volonté politique en travail législatif. Pourquoi considérer qu'un technocrate qui a fait l'ENA est forcément déconnecté de la réalité des gens et vit dans le même monde que nous, cette personne? Alors, je suis d'accord avec toi, faut pas être trop caricatural. Je parle pas à titre individuel, mais globalement, les énarques, enfin les personnes qui ont fait des études longues sur le fonctionnement de la vie politique, sont assez peu représentatives de la diversité de la population française. Ne serait-ce qu'en termes de classe sociale, les personnes qui font des études longues sont plutôt des personnes qui appartiennent à la bourgeoisie, alors que la grande majorité du peuple, il y a aussi beaucoup de classes populaires. Mais encore une fois, moi je préfère des élus qui n'y connaissent pas grand-chose et qui sont entourés par des conseillers qui sont là pour les aider. Est-ce que c'est pas le rôle de l'EMC d'expliquer le fonctionnement de la Ve République? L'éducation morale et civique a effectivement une composante d'explication du fonctionnement des institutions. Mais vous savez, c'est pas parce que. Enfin, il ne faut pas tout attendre de l'école. Vous avez le droit de continuer à vous former après être sorti de l'école. Disons que l'EMC, c'est un avant-goût. L'EMC au collège, on explique aux enfants le béaba du fonctionnement, sans trop rentrer dans le détail, mais c'est normal, on est à l'école, hein. C'est pas un niveau de formation de droit public en cinquième année d'études. Est-ce que ça manque pas au lycée justement en rentrant un poil dans les détails. Bah, au lycée, tu as un programme d'histoire qui prévoit normalement l'examen de la période contemporaine. Au lycée, pour préparer ton bac, ça fait partie des programmes pour préparer le bac, tu as appris la 4ème République et la 5ème République. La crise d'Alger, le passage de la 4ème à la 5ème, l'élection du président de la République, le référendum de 62, etc. En principe, ça fait partie des programmes d'histoire. Après, ça dépend de votre prof d'histoire géo, ça dépend de vos lectures, ça dépend des manuels scolaires, ça dépend de beaucoup de choses. Mais s'il vous manque des briques de compréhension, c'est pas grave, il faut pas en vouloir à l'école pour ça. L'école, elle fait ce qu'elle peut, et les enseignants, ils se battent pour essayer de finir les programmes. Vous avez le droit, tout au long de votre vie, de continuer à vous interroger et à apprendre. J'ai trop bédave à cette période, j'ai tout zappé. Bah, on est d'accord pour... Bon, n'en voulons pas à l'école alors, elle a rien fait, elle. Elle fait ce qu'elle peut. Si tu bédaves et que t'écoutes pas en cours, on va reprocher à l'éducation nationale de pas t'avoir appris des trucs. On est d'accord. Bah, je veux bien, hein. Je suis prof, notre difficulté c'est que ces sujets sont souvent des sujets de fin d'année qu'on n'a pas forcément le temps de traiter correctement. Oui, non, mais c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Les profs, ils font ce qu'ils peuvent. L'éducation nationale, elle fait ce qu'elle peut. C'est pas toujours facile. Et parfois, oui, il y a des chapitres qui sautent. Bon, et ben c'est pas grave, vous avez la vie devant vous pour apprendre. Chaque élection présidentielle est l'occasion de s'intéresser. Vous avez même une formidable chaîne Twitch à laquelle je vous invite à vous abonner qui est là pour vous expliquer si vous avez raté des trucs. Je trouve qu'on devrait au lycée avoir des cours d'introduction générale au droit pour vraiment comprendre comment ça marche. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ça fait en partie du programme de l'EMC d'avoir une sensibilisation au droit. Mais le niveau basique, hein, voilà, expliquer ce que c'est qu'un magistrat, ce que c'est que la magistrature du parquet, la magistrature assise, expliquer le rôle d'un avocat, expliquer le fonctionnement de notre paysage judiciaire, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Expliquer le système juridique judiciaire, le système juridique administratif, expliquer les différents tribunaux. Je pense effectivement que ce serait une bonne idée, ouais. Je crois qu'il y a une option droit en terminale. Ah bah voilà, bah s'il y a une option. Merci Zossa pour ton resub, merci Alusat, merci Shlogan, merci Jolem, merci John, merci Nenju pour vos resubs, merci à vous, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à utiliser Amazon Prime, hein. Vous savez qu'avec Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma chaîne. C'est gratos. C'est bien. Est-ce que Backseat pourrait faire une émission sur les programmes de l'EMC? Non, Backseat est une émission d'actu. Donc c'est l'actualité qui dicte ce dont on parle dans Backseat. Maintenant, il y a une option droit au lycée, 3 heures par semaine, mais c'est en plus. Ouais, c'est une option. C'est une option. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus loin dans les élections des délégués? C'est un vrai premier moment de démocratie où on pourrait expliquer plein de trucs. L'élection des délégués est effectivement l'occasion d'apprendre plein de trucs, je suis d'accord avec toi. Après, la démocratie ne se résume pas à l'élection. Et moi, je pense qu'il faudrait développer la démocratie lycéenne, avec les associations lycéennes, avec les clubs, avec plein de trucs qui permettent aux lycéens de s'engager, enfin de s'engager, de découvrir pour la première fois de leur vie. Le béaba de l'organisation, le béaba de la méthodologie de projet. Franchement, on ferait mieux de nous parler des élections syndicales. Bah, c'est pas exclusif, hein. On peut aussi le faire. Pourquoi Chirac a dissous l'Assemblée en 1997 alors qu'il avait la majorité à l'Assemblée? En fait, il avait une mauvaise majorité. À l'époque, les élections des députés se faisaient tous les 5 ans, mais l'élection du président de la République se faisait tous les 7 ans. Donc il y avait une décorrélation du calendrier qui s'emboîtait pas parfaitement. Du coup, il y avait des décalages qui se créaient. Jacques Chirac a été élu en 1995 Et à l'Assemblée nationale, il y avait la majorité qui était issue de 1980, de 1993. Or, la majorité de 93 n'était pas 100% derrière Jacques Chirac. Donc Jacques Chirac arrive, devient président de la République, et il se dit qu'il serait une bonne idée de dissoudre l'Assemblée maintenant, de manière à ce que les Français lui donnent une majorité de députés 100% chiraciens. Alors que dans la majorité qu'il y avait jusqu'alors, il y avait encore beaucoup de baladuriens, qui n'étaient pas des chiraciens. Et donc Chirac, pour se ménager une bonne majorité pour gouverner, dissout l'Assemblée nationale, et les Français décident de voter majoritairement à gauche en 1997. Donc Jacques Chirac a perdu son pari. C'est bien joli ce que tu dis, mais jamais l'éducation nationale irait remettre en cause la Constitution ou la Cinquième. L'EMC semble juste être un sous-SNU avec l'activité physique en moins. Écoute, moi je suis pas d'accord avec toi. J'ai eu des cours d'éco et de sociaux au lycée. Alors après, moi j'ai fait ES. Moi, c'est au lycée qu'on m'a appris Marx, c'est au lycée qu'on m'a appris la contestation, la critique. Ma nièce de 10 ans est au conseil municipal des enfants. Plus ils s'y intéressent tôt, plus ils auront mieux à comprendre le système politique. Oui, peut-être. Alors les conseils municipaux des jeunes ou les conseils municipaux des enfants, c'est effectivement, je suis d'accord avec toi, une très très bonne manière de se frotter un petit peu, à la politique, au sens de la politique publique, la fabrication des règles, etc. Moi, je trouve ça très très bien. Qu'est-ce que tu veux qu'elle comprenne à 10 ans, sérieux? Bah, tu sais, les enfants, ils sont pas bêtes, hein. À 10 ans, tu peux comprendre le béaba de la principe du fonctionnement d'une réunion, la circulation de la parole, la prise de décision collective. Si, à 10 ans, tu peux comprendre des choses assez basiques, mais assez nécessaires, hein. Tu sais, moi, je connais des gens qui, à l'âge de 24 ans, n'ont jamais participé à une réunion de leur vie. Une réunion. Tout simplement une réunion. Se mettre autour de la table à plusieurs personnes, avoir un ordre du jour, avoir un compte rendu, s'asseoir simplement et discuter avec les autres, faire circuler la parole, respecter l'avis de l'autre, argumenter. Je suis sûr qu'il existe des personnes qui, à l'âge de 30, 40, 50, 60 ans, n'ont jamais eu de réunion de leur vie, hein. Bon, bah écoute, pas grave, hein. Connaître le fonctionnement de nos institutions permet d'avoir un esprit critique sur le sujet. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Complètement. Je trouve que le travail en groupe est vachement mis de côté dans le système éducatif primaire. Écoute, moi je pense pas. Enfin, pour en avoir discuté avec beaucoup d'enseignants, il y a de plus en plus justement le côté Troisième République où t'as un prof devant le tableau et les enfants qui sont devant lui en mode public, maintenant il y a de plus en plus de. On met les chaises en rond, on travaille ensemble, on élabore des exposés, on travaille. Enfin, même au niveau primaire, maintenant dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires, il y a de plus en plus de travail collectif. Courage aux profs, hein. Des bisous les profs. Est-ce que c'est vraiment le souhait de nos élites que les citoyens aient un esprit critique? Ça dépend qui tu mets dans les élites. Le travail en groupe est poussé de la primaire aux études supérieures, je trouve, et c'est bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve ça très très bien qu'on casse un petit peu les dynamiques traditionnelles de l'école pour mettre en place des trucs un peu plus innovants, un peu plus souples, un peu plus collectifs. Ouais, carrément. On organise l'étape pour qu'elle tienne dans la classe. Ouais. C'est sympa les îlots, mais ça prend trop de place. Ah ouais, c'est pas facile à faire. Essayer de mettre des chaises d'amphi en cercle. Ah non, ça c'est. Ah, c'est un choix plus compliqué. Le CP en mode agile. Bah oui, non, mais c'est très bien. Au Japon, il y a des conseils d'école, même je crois, et ils ont même le ménage à l'école. Alors oui, alors le système japonais fonctionne très différemment du système français. Mais en France aussi, hein, il y a des conseils de classe. Enfin, après, ça dépend des écoles, hein. Ça dépend des écoles, ça dépend des enseignants aussi. Il y a des enseignants qui ont des pédagogies innovantes, ça dépend lesquels. Alors sans forcément aller dans Célestin Freinet, Montessori, etc. Il y a des profs qui font des conseils de classe avec les enfants, qui mettent les enfants en rond, qui établissent des règles avec les enfants. Je connais pas mal de profs qui ont des méthodes comme ça pour discuter avec les enfants des règles. Les règles de la vie en classe, etc. Il y a des profs qui les organisent avec les enfants dans un travail justement de pédagogie du collectif. Donc voilà quoi. Ah tiens, un petit mot d'information puisque j'y pense. Vous pouvez prendre vos places pour Backseat pour toutes les émissions jusqu'à la fin de l'année. On a ouvert, hop, voilà, regardez, la page With Events, la billetterie pour prendre vos places et venir dans le public comme ces très belles personnes qui ont hâte de boire une bière et de manger des nems. Voilà, regardez. On vous a mis toutes les places jusqu'à la fin de l'année. Vous pouvez venir à l'émission du 9, l'émission du 16, l'émission du 30, l'émission du 7, l'émission du 14 décembre. Donc n'hésitez pas, si vous voulez venir à Backseat, on vous a mis un petit peu plus en avance que d'habitude les places, profitez-en. Est-ce que vous allez faire des émissions en province ou c'est pas prévu? Ça dépendra des partenariats. Si on a des partenariats avec des collectivités locales ailleurs qu'à Paris, ou pas, ou des entreprises ou n'importe quel partenaire, alors on pourra délocaliser Backseat. Mais ça coûte beaucoup plus cher de faire Backseat en province. Et la Bellevilloise, ça aura lieu le 23 et il y aura plus d'informations à venir. C'est qui le traiteur qui fait les nems? Ils sont fabuleux. Bah, si tu veux apprendre à les cuisiner, regarde, il faut que tu fasses un don à Backseat. Il reste 123 euros mensuels, hop, ici, pour remplir cette jauge. Et quand vous serez arrivé à 20 000 euros, vous déclencherez le donation goal, le prochain palier. Une émission spéciale pour apprendre à cuisiner les nems. Fun fact, le traiteur a reçu des avis Google de gens qui sont venus chez lui après être venus à Backseat. Sérieux? Eh ben merci au traiteur qui nous fait les nems. Très content qu'il ait eu des notes positives sur, sur Google. C'est cool. Aujourd'hui, le traité de Maastricht fête ses 30 ans, mais c'est quoi? Le traité de Maastricht, c'est un traité qui a été voté, qui est entré en vigueur en 1992 et qui crée l'Union européenne. Avant, il y avait les communautés économiques européennes, la communauté économique européenne. Il y avait d'ores et déjà des proto-organisations qui ressemblaient à l'Union européenne. Il y avait déjà un Parlement européen, mais qui avait moins de pouvoir, etc. Le traité de Maastricht en 1992, c'est le traité qui institue l'Union européenne avec sa commission, avec son Parlement, avec son Conseil, etc. Après, il a été révisé plus tard. Il y a eu le traité de Nice, le traité d'Amsterdam, etc. Je rentre pas dans le détail. Mais le traité de Maastricht, c'est un traité assez important pour ça. Hop. Ah merde, je me suis trompé. Hop. Attendez, je regarde. Il y a quelqu'un qui m'a demandé les prochains paliers. Non, on n'a pas encore révélé le palier à 21 000 euros. Ça viendra plus tard. Hop. Attends, je te les renvoie. Ah bon? Ah, mais non, mais du coup, ça a pas été mis à jour sur le site, sur KissisBankBank. Faut que je mette à jour. Bon bah vas-y, PM, je te laisse faire, mais là aujourd'hui c'est férié, PM, enfin, t'es pas obligé de bosser, hein, tranquille. Est-ce que tu considères que l'Union européenne est plus contraignante que pratique pour la France? Ça fonctionne pas comme ça. L'Union européenne, c'est une organisation internationale, c'est un marché commun, c'est une monnaie unique, c'est beaucoup de choses et ça se résume pas simplement dans un tableau plus et moins. Ce que les Britanniques sont en train de comprendre, malgré eux. Voilà. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Regardez, je vous montre. Les prochains paliers. À 20 000 euros. Donc, quand on aura atteint le palier de 20 000 euros de financement mensuel pour Baxit, il y aura une émission cuisine spéciale NEM. À 21 000 euros, il y aura la traversée de l'Atlantique sur Flight Simulator dans les conditions de 1927. À 22 000 euros, je ferai de la boxe avec Latifa. Latifa va m'apprendre à boxer. Elle va mettre des coups de poing dans la tête, ça va être bien. À 23 000 euros, une émission de jeu de rôle, une émission Backseat spéciale jeu de rôle, on va faire un jeu de rôle avec Fibre Tigre. À 24 000 euros, une émission avec Usul et Os Politique. À 25 000 euros, une émission spéciale quiz à la con, 100% quiz à la con. À 28 000 euros, une soirée stand-up avec Adèle et ses amis. Et pourquoi pas des chroniqueurs de Backseat qui s'essaieront au stand-up. Et à 30 000 euros, une émission Backseat Tough. On verra où on la fera, mais on n'y est pas encore. Donc voilà où on en est dans les donation goals. N'hésitez pas, vous aussi, à vous abonner à Backseat sur KissKissBankBank. C'est grâce à vous qu'on peut faire cette émission. Une fois. En stream, tu as fait une critique sur le fait que les Français avaient rejeté la Constitution européenne en 2005, mais avaient voté Sarkozy en 2007. Mais on ne peut pas dire que voter Sarkozy en 2007, c'est un changement d'avis par la référence de 2005. Est-ce que tu peux en dire plus? Non, tout ce que j'expliquais, c'est que les Français ont voté non au traité constitutionnel européen de 2005, ce qui a ouvert une crise politique en Europe. Et parmi les propositions qui étaient faites pour sortir de cette crise, il y avait Nicolas Sarkozy qui, à partir de 2006, est rentré en campagne présidentielle et a promis aux Français, s'ils votaient pour lui et s'il l'élisait président, qu'il relancerait le travail de construction européenne avec un mini-traité. À l'époque, on disait le mini-traité, ce qui a donné plus tard le traité de Lisbonne en 2008. Donc on ne peut pas décorréler le vote de 2005 du vote de 2007. Parce que c'est le même corps électoral qui a voté. Donc les Français ont voté non au traité constitutionnel européen. Ils ont voté oui à Nicolas Sarkozy en 2007. Et en 2008, Nicolas Sarkozy a fait adopter par le Congrès le traité de Lisbonne. Alors ça ne veut pas dire que les Français ont voté le traité de Lisbonne, puisque c'était voté par le Congrès. Mais ce que je veux dire, c'est que l'histoire ne s'est pas arrêtée en 2005. Il y a eu d'autres votes après. Qui traversera l'Atlantique, toi? Ouais. Donc c'est pas un changement d'avis, c'est une évolution. Mais c'est pas un changement d'avis. Les Français ne changent pas d'avis, hein. Les Français ne font qu'émettre des avis. Il y a pas de retournement. C'est exactement comme si tu me disais, est-ce que les Français ont changé d'avis entre l'élection d'Emmanuel Macron en 2022 et l'élection législative en 2022. Non, les Français n'ont pas changé d'avis, hein. Les Français ont élu Emmanuel Macron à nouveau président de la République et les Français ont décidé de lui envoyer une majorité relative à l'Assemblée. C'est les mêmes Français, hein. C'est quoi les conditions de 1927? C'est la première transatlantique en avion réalisée par Charles Lindbergh. Et moi, je m'engage à essayer de refaire le même vol que lui sur Flight Simulator, dans le même avion, dans les mêmes conditions météo. Ça n'a pas duré 15 heures, ça a duré 33 heures. Ou alors, autre explication, notre système électoral ne permet pas de représenter correctement la vie des Français. Ou alors, c'est le référendum. qui ne permet pas de représenter correctement la vie des Français. Mais je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que tu peux émettre une critique en regardant l'un ou l'autre. Quand tu dis ça, ça sous-entend qu'aussi que les Français comprennent exactement l'implication de leur choix. Je ne pars pas du principe que les électeurs sont des cons, qui ne comprennent rien à rien et que ce sont des moutons ou je sais pas quoi. Les électeurs sont des adultes, consentants. Ce sont des gens qui savent ce qu'ils font. Et personne n'a raison ou personne n'a tort de voter de telle ou de telle manière. Chacun émet une opinion. Un vote, c'est l'occasion d'une opinion. Et je trouve ça un peu facile de dire les Français ont voté non en 2005 parce que c'est des gros cons, parce qu'ils comprennent rien à l'Union européenne, parce que c'était trop technique pour eux. Moi, je supporte pas cette explication-là. Je trouve ça profondément injurieux pour les gens. Les gens ont le droit, souverainement, de voter oui ou non à un référendum. Il y en a beaucoup qui disaient ça à l'époque. Je sais, ça m'énervait déjà à l'époque. J'étais très jeune à l'époque, mais ça m'énervait beaucoup d'entendre à la télévision des gens prendre de haut, mépriser les électeurs en disant ah, mais de toute façon, les Français, c'est des gros débiles. Français, ils sont cons. La preuve, ils sont pas d'accord avec moi. Vu que moi, je suis intelligent, si les Français, ils votaient comme moi, eh ben, c'est la preuve qu'ils seraient intelligents. Mais comme ils votent pas comme moi, ben, c'est la preuve qu'ils sont cons. Tu vois, c'est... Est-ce que tu as la même opinion au sujet du Brexit? Ah, j'ai la même opinion au sujet du Brexit, hein. Je pense que les Britanniques, ils ont eu ce qu'ils souhaitaient avoir. Ils sont sortis de l'Union européenne. C'est le discours de beaucoup de militants. Ça dépend. Ouais, ça dépend quel militant, hein. Et le Brexit, donc, les Anglais s'en mordent bien les doigts. Alors, j'ai cru voir qu'il y avait des sondages qui montraient qu'il y a plus de 60%, je crois, des Britanniques qui regrettent le Brexit. Après, le Brexit, c'est aussi ça, la particularité et la difficulté pour les Britanniques, c'est que sortir de l'Union européenne, d'accord, mais en négociant les conditions de la sortie. Je pense que ce qui a surpris les électeurs britanniques, c'était l'union. Enfin, c'était le... Oui, c'est ça, c'était la dynamique d'union des 26 États membres. Ce qui était promis en partie par Nigel Farage, etc., pendant la campagne du Brexit, c'est que une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne allait se déliter, que les autres pays aussi allaient sortir. Malheureusement pour Nigel Farage, ce qui s'est passé, c'est exactement l'inverse. C'est que le vote du Brexit a créé une cohésion européenne très importante. Et que donc les conditions négociées par le Brexit, par les Britanniques pour sortir de l'Union européenne, n'ont probablement pas été les conditions les plus chouettes pour les Britanniques. Parce que, pourquoi? Parce que les pays européens étaient unis. J'ai l'impression que l'on a emporté que le non l'a emporté car la classe politique n'a pas été capable d'expliquer les conséquences du traité et soit ont été trop confiants, soit méprisants en mode tu comprends pas, t'inquiète, oui, ça, t'inquiète, vote, oui, ça ira. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Moi, je me souviens, c'était la perception que j'en avais. J'étais jeune à l'époque, hein, je devais avoir 14 ans, 15 ans, 13 ans, je sais plus. Je me souviens à la télé qu'il y avait les gens qui défendaient le oui à la Constitution européenne. Je me souviens qu'il y avait des gens extrêmement méprisants. Est-ce que la France pourrait sortir de l'Union européenne et qu'est-ce que ça changerait? J'en sais rien ce que ça changerait. Puisque regarde, le Brexit, c'est le très bon exemple de tu peux pas savoir à l'avance comment ça va se passer. Si la France sort de l'Union européenne, qu'est-ce qui garantit qu'on aura des accords commerciaux favorables avec nos voisins? J'en sais rien. Si l'Europe est unie, qu'est-ce qu'on fait? T'es pas vraiment en position de force hein, quand t'es tout seul face à 25 États membres. Je suis assez d'accord avec toi, c'est pas que les gens ils sont bêtes, c'est qu'ils sont pas assez informés. Après, encore une fois, le vote n'est pas l'expression d'une connaissance ou d'un savoir. Le vote, c'est l'expression d'une volonté. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de vote qui a raison et de vote qui a tort, de manière objective, etc. Non, un vote, ce n'est jamais que l'expression d'une volonté. Les gens, ils votent en fonction de ce qu'ils veulent. Et je ne suis pas là pour juger si ce qu'ils veulent, c'est bien ou pas. Alors, si, je peux le juger par rapport à moi, par rapport à mes opinions personnelles. Il y a des gens dont le vote est un vote que je n'aime pas. Il y a d'autres gens qui ont un vote que j'aime bien. Mais ça, c'est par rapport à mon système de valeurs à moi. Mais de manière scientifique, si vous voulez, il n'y a pas des gens qui ont raison et des gens qui ont tort. Ça marche pas comme ça. Les opinions sont manœuvrées par les médias, les chroniqueurs politiques. Oui, mais oublie pas les proches aussi, hein. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup en famille aussi qu'on forme son opinion politique. C'est en discutant avec ses proches. Pas que les médias. Comment ça, n'oublie pas des proches? Jamais oublier des proches. Il ne faut jamais oublier des proches. Pour le Brexit, il y a quand même eu des politiques très démagogues comme Johnson qui ont promis monts et merveilles par opportunisme aussi, tu trouves pas. Mais ça, il y en a toujours. Il y en aura toujours d'ailleurs. C'est comme Donald Trump qui promet la construction d'un mur avec le Mexique. C'est complètement démagogue, ça n'arrivera pas, c'est un mensonge. Bien sûr. Les rues de Paris ne sont plus sûres. Ah putain, il est tellement bien ce sketch. Pourquoi Johnson est censuré, je sais pas. Ça, c'est Moubot. Les élections européennes seront d'ailleurs un scrutin européen, pas national. C'est pas assez rappelé jusqu'à présent. Bah, si, moi, je le rappelle à chaque fois, mais. C'est quoi ce sketch? C'est un sketch de Pierre Desproges dans son spectacle de 1986. Il s'appelle Les rues de Paris ne sont plus sûres, où Pierre Desproges parle de l'insécurité montante dans les rues de Paris. 72? C'est son spectacle de 72? Les rues de Paris? Oh, putain, ça remonte. T'es sûr? Avec mon macroniste de père, notre dernier repas ne s'est pas bien terminé. Ah, bah ça. Non, c'est ça, c'est bien 1986, c'est pas 72. C'est pas celui où il arrive sur scène et en demandant s'il y a des juifs dans la salle. Bah, je crois que c'est ça. Avec le spectacle sur les juifs, enfin le sketch sur l'antisémitisme. Je crois que c'est le même spectacle, ouais. Je vais faire une pause technique, les amis, j'ai envie de pisser. Je reviens tout de suite. Chante Slobby. Sloubi 83. Félicitations. Ça va toujours, les amis? Est-ce que vous passez une bonne journée en ce jour férié? C'est bon, c'est la fin de Sloubi. Hop là, bof, il pleut. Ouais, il y a des averses en ce moment. Mais là, il y a du ciel bleu. C'est pas assez bizarre. J'ai la crève, c'est chiant. Ah merde, courage. Je profite pour rien faire, t'as bien raison. Tranquille, délicieuse. Bon, bah c'est cool. Tant mieux, tant mieux. J'ai fait une rando, c'est cool ça. Est-ce que c'est férié aussi à l'Assemblée nationale? Ouais, c'est férié. Il n'y a pas de séance publique en tout cas. Les députés sont comme vous, ils sont devant le stream, en train de se détendre. Ça va les députés? Merci Purple pour ton resub, merci Jojo pour ton resub, merci Portachar, merci Rictus, merci Ananou, merci HQ, merci Radinus, merci Quinchi. Merci pour vos resubs, merci pour vos abonnements. Est-ce qu'il y a des nouvelles du Potichat? Le Potichat va bien, elle est sous mon lit. Elle s'éclate la nuit quand je dors. Elle bouge partout. Elle joue, voilà, elle vit sa meilleure vie quand je suis pas là. Est-ce qu'on peut la voir? Avec ce logiciel tout pété là. Ouais. Hop. Voilà. Vous voyez la caméra de surveillance qui est sous mon lit, avec le petit chat qui est roulé en boule contre le mur. Le petit chat tout noir. Et j'ai mis des livres pour surélever le tissu là. Elle profite de son jour férié. Attends, je vais essayer de l'appeler. Elle s'en fout complètement. Je pense qu'elle dort. T'as pas pris le code civil? Maintenant, le code civil, il est rangé là-bas. La boule noire, c'est un chat. Ouais, c'est un petit chat tout roulé en... Coucou, panier, papa t'en rond. Peut-être que tu pourrais lui mettre une sorte de panier couette sous le lit. J'ai déjà essayé, elle veut pas. À quel autre moment ton petit chat bouge? En journée, elle bouge pas. Et la nuit, elle attend que je dors et elle se casse. Elle va faire ses besoins, elle va manger, elle va boire. Elle va jouer. Elle est pas trop confort, juste une zone où personne peut l'emmerder. Exactement. C'est un petit chat craintif, donc elle a peur. Elle a un panier ici dans lequel elle est absolument jamais allée de sa vie. Elle a un panier ici dans lequel elle va très peu, mais la nuit elle y passe. Après il y a sous le canapé, mais c'est pas plus confortable. Il y a sa caisse qui est là-bas. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas super confort. Je suis d'accord. Merci Manu pour ton resub. Je suis de Finlande et c'est intéressant de plonger dans l'actualité politique française avec Baxit et tes streams, donc merci à toi. Ça fait plaisir. Merci, Dust. C'est très gentil comme commentaire. T'es pas trop déçu de pas avoir d'interaction avec elle? Si. Si, 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 si. J'aimerais bien avoir un petit chat câlin, mais j'ai un petit chat craintif à la place. Merci New Age pour ton abonnement, merci à toi. Ça va venir, ouais, ça va venir. Écoute, ça fait 6 mois là. Il y a des tout petits changements. Est-ce que tu as un ouvrage à recommander pour quelqu'un d'assez jeune qui aimerait comprendre comment marche la politique, grosso modo? Non, j'ai pas de bouquin à te recommander. C'est une question trop large et moi, j'aime pas les livres. Je suis pas un lecteur. donc je saurais pas te recommander de livres. Je sais pas, peut-être que des gens dans le chat ont des recommandations, mais moi. Ça te ferait trop de chats. Bah, en ce moment, on discute avec l'association pour savoir si ce serait pas une bonne idée de me donner un deuxième chat, mais qui est plus sociable, pour aider Zara à être plus sociable. Le problème que j'ai, c'est que, en fait, j'ai besoin d'une solution de sortie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si ça marche pas? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je peux pas me retrouver avec deux chats craintifs. Un, c'est déjà beaucoup. Deux, j'y arriverai pas. Donc, je voudrais qu'on établisse avec l'association un plan en disant, ok, on fait le point dans plusieurs mois. Ça peut prendre du temps, hein, c'est normal. On se dit à l'été prochain, si les deux chats sont craintifs et ne sortent pas, alors on les met ailleurs. Le Feliway pour l'apaiser, le Feliway ça marche pas. Feliway c'est un très très bon produit marketing, mais ça a juste jamais été démontré que ça fonctionnait. C'est un peu de l'homéopathie. Là, ce que je vais essayer, on m'a recommandé d'essayer le CBD, donc des petites gouttes de CBD, très peu dosées, que je vais lui mettre dans sa gamelle. Il paraît que ça peut l'aider à se détendre. On va voir. Parce que l'herbe à chat, ça excite. Le CBD, ça détend. Donc, on va essayer le CBD. Je conseillerais de commencer à la philo-politique, Marx, Engels. Moi, je déconseillerais de commencer avec de la philo. Ça, si. La philo-politique, à mon avis, c'est pas le mieux. Non, tu peux. Tu sais, il y a la collection pour les nuls. Je crois qu'il y a la politique pour les nuls. Ça existe. Hop. Voilà. La politique pour les nuls. La longue marche vers la démocratie, le fonctionnement des institutions de la 5e, les acteurs de la vie politique française, président jupitérien, moralisation de la vie politique, terrorisme, emploi, le point sur les grandes questions d'actualité. Voilà. Ce bouquin-là, à mon avis, c'est un très bon début. La collection pour les nuls est une assez bonne collection. Donc n'hésitez pas. Peut-être que je me l'offre d'ailleurs, ça me ferait du bien. Il a combien? Il a 6 balles. Ah non, c'est en occasion à 6 balles. En 9, il est à 22 euros. Je me disais aussi, c'est pas beaucoup. La géopolitique pour les nuls trône sur ma table de nuit. Ah ouais? Bah c'est bien. Merci Alpagaz pour ton resub, merci beaucoup. J'ai bien l'ouvrage en tête, mais pas sûr que ça banne. Ouais, non, non, tu vas te faire ban, je te le garantis. Tu voudrais pas écrire un livre comme ça aussi? Je sais pas. Je sais pas. Écrire un livre, c'est un métier à part entière, c'est un savoir-faire. Je sais pas. Est-ce qu'il n'était pas question de faire la constitution pour les nuls à un moment? Si, c'est un donation goal du The Event. C'est un donation goal du The Event que j'ai pas encore fait. La politique pour les nuls. Pas la politique, la constitution. La réécriture de la constitution pour les nuls. Est-ce que t'as un philosophe préféré? Non. En vrai, vous vous dites que dans ce chat, il y a probablement quelqu'un qui va devenir un responsable politique de premier plan à cause de Jean. Non, mais ce serait très bien, hein, démerdez-vous. Moi, j'ai déjà reçu des messages très gentils de la part de gens qui m'ont dit qu'ils avaient été élus aux élections municipales en 2020, après avoir découvert la politique sur ma chaîne. Je trouvais ça très gentil. J'aime beaucoup recevoir des messages de gens qui me disent, voilà, je voulais juste te remercier, tu m'as fait découvrir la politique et il se trouve que j'ai été sur une liste au municipal et maintenant je suis élu, je suis conseiller municipal. Moi, je trouve ça trop cool. Tu lis tous les commentaires, en tout cas les miens, t'es une machine. Alors ça va, ça défile pas trop vite aujourd'hui, c'est tranquille. Élu de quel bord, j'en sais rien, je m'en fous. Gens qui fait démarrer des carrières. Il y en a peut-être aussi qui se sont plantés, hein. Il y en a peut-être qui ont découvert la politique grâce à moi, qui se sont lancés dans la politique et qui aujourd'hui sont en burn-out, hein. J'espère pas. Mais c'est possible. Non, Non, oui, alors si vous voulez vous intéresser à la politique, je vous recommande des podcasts. Il y en a deux que je vous recommande. Il y a les podcasts de Philippe Collin sur France Inter, qui fait des portraits. Il a fait Simone de Beauvoir, il a fait Philippe Pétain, il a fait Léon Blum, qui d'ailleurs a été adapté en version bouquin. Donc ça, c'est des biographies, c'est plutôt pas mal. Et l'autre podcast que je vous recommande, c'est une émission de France Inter qui s'appelle En quête de politique, qui est faite par Thomas Legrand, le journaliste, et qui s'interroge, il fait des épisodes sur les ismes. Je vais vous montrer. Pour essayer de comprendre la politique, hop. Il a fait des épisodes, le terrorisme, le catholicisme de gauche, le néo-gramschisme, le révisionnisme, le populisme en quatre épisodes, le libéralisme, l'humorisme, le néo-gaullisme, l'écologisme, le mendésisme, le trotskisme, quatre épisodes sur le trotskisme, l'universalisme, le parlementarisme, les réactionnaires, bref. Et à chaque fois, c'est des épisodes de très 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 grande qualité avec des spécialistes, etc. Vraiment, n'hésitez pas. L'astérisme. C'est si complexe que ça, le trotskisme? Oh oui. Oh oui. Il avait fait aussi des épisodes sur le chevènementisme, il avait fait l'anarchisme aussi. C'est vraiment hyper intéressant. Il avait fait quatre épisodes sur l'anarchisme. Donc parfois, ouais, quand les sujets sont lourds, il n'hésite pas à faire quatre épisodes sur le même sujet. Donc il y avait l'anarchisme en quatre épisodes, le trotskisme en quatre épisodes, les réactionnaires en trois épisodes, le populisme en quatre épisodes. Et franchement, ça s'écoute très bien. L'alpinisme. C'est comment le nom de la chronique? C'est pas une chronique, c'est des podcasts entiers. Ça s'appelle Enquête de politique. Enquête de politique. N'hésitez pas à écouter Enquête de politique de Thomas Legrand. C'est bon pour la santé. Je trouve que les savoirs du genre c'est quoi l'État et c'est quoi la nation, c'est pas facile d'y accéder. Et je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, c'est pas facile d'accéder à la connaissance et la compréhension de mots et de concepts aussi difficiles à saisir que l'État, la nation, le pouvoir, la loi. Et il y a des philosophes qui s'interrogent là-dessus. Mais je redis que vous n'avez pas besoin de connaître par cœur ce que c'est que l'État pour vous interroger sur la politique. Moi, je suis un démocrate et je suis surtout un défenseur de l'accessibilité de la politique. Donc, c'est pas parce que vous n'êtes pas capable d'expliquer les mécanismes économiques, macroéconomiques, que vous n'avez rien à dire sur le niveau de votre salaire, par exemple. Il faut pas que la politique, il faut pas que vous vous sentiez disqualifié de vous interroger sur la politique sous prétexte qu'elle serait trop compliquée. Ça, il faut surtout pas tomber là-dedans. Certains, ils passent leur vie dessus. Tu m'étonnes que ce soit compliqué. Oui, non, je suis d'accord. C'est fou de se dire que bon nombre des membres de cet État ne connaissent même pas ce que ça signifie. Bah, c'est pareil pour la citoyenneté, c'est pareil pour la République, c'est pareil pour la démocratie. Mais ouais. Ça bug quand je veux aller sur la page backseat sur KissKissBankBank. Quoi? Je suis sûr que non. Ah ouais, ça bug. Il y a un bug de KissKissBankBank. Ah non, ça plante. Oh non! La page de backseat, elle est buggée. Fait chier. J'espère que ça va être rétabli bientôt. Tiens-moi au courant si jamais ça continue à bugger. Chez moi, c'est bon. Ah ouais? C'est férié pour le site. Ouais, c'est vrai, c'est un jour férié. Du coup, je fais un don de 10 000 euros par mois. Si tu peux, ce serait sympa, ouais. Mmh. Tu nous envoies le lien pour demain quand? Vous devriez le recevoir par mail dans la journée pour les membres du club Baxit. Pourquoi il y a eu un vote au Sénat sur l'écriture inclusive? C'est pas censé être géré par l'Académie française. Non, c'est pas géré par l'Académie française et il y a eu un vote au Sénat parce qu'il y a eu une proposition de loi au Sénat pour interdire l'écriture inclusive et ça a été voté par les sénateurs. Après, cette proposition de loi, pour qu'elle entre en vigueur, il faut qu'elle passe à l'Assemblée nationale. Un peu réac, ouais, carrément même. Donc le chat est sous le lit. Ouais, le chat est sous le lit, ouais. L'académie ne sert à rien et c'est tant mieux. Oui, je suis d'accord avec toi. L'académie, on s'en fout un peu. Elle est censée écrire un dictionnaire. Après, ouais, elle fait ce qu'elle veut, hein, mais. C'est beaucoup de temps perdu pour rien, cette proposition de loi. Oh, si ça peut te rassurer, ça a pas pris énormément de temps au Sénat non plus, hein. C'est une loi très simple. Je sais pas combien d'articles il y avait dedans, mais à mon avis, ça a été assez rapidement examiné. Si j'ai un abonnement à 5 euros et que je passe à 10 euros aujourd'hui, est-ce que j'aurai le lien aussi? Oui, absolument. J'avoue, eux, ils ont des sabres. Est-ce que t'as un sabre, toi, Jean? Non, c'est vrai que j'ai pas de sabre. C'est vrai que j'ai pas de sabre, alors que les académiciens, ils ont une épée. C'est classe, quand même, l'épée. Moi, je veux être un paladin, moi. Ça interdit quoi la loi exactement? La proposition de loi qui a été adoptée en première lecture au Sénat propose d'interdire l'utilisation de l'écriture inclusive pour tous les organes de l'État, pour tous les pouvoirs publics et pour toutes les organisations subventionnées par l'État. Voilà. Mais bon, encore une fois, il faudrait que ce soit voté par l'Assemblée, et je suis pas sûr que l'Assemblée ait que ça à foutre. En ce moment. Ça sert à quoi de le bannir? Je sais pas. Ça, pour le coup, il faut demander aux promoteurs de cette proposition de loi. Apparemment, c'était important pour eux de bannir l'écriture inclusive. C'est quoi l'écriture inclusive en vrai? L'écriture inclusive, c'est une technique qui permet de faire ressortir et d'inclure les tournures féminines dans les mots, en mettant par exemple un point médian. Pour dire française, français, on écrit FRANCCDI AI.E.S. Non. AIS.E.S. Oui, c'est ça. Attends. Non, point, un seul point. Je crois. Bref. Et ça se lit française, français. Française et français. Tu peux pas résumer l'écriture inclusive au point médian. Non, c'est vrai, c'est ce que je suis en train de faire. C'est plus compliqué que ça. Il y a aussi le yel, le pronom yel, qui se lit il et elle, ou il ou elle. N'y a pas que le point médian, ouais. Ça reste plus simple de dire française, français. Mais ça se dit française, français, c'est juste que ça s'écrit différemment. Est-ce que ça fait changer les règles du motus? C'est vrai ça? Faut poser les vraies questions, les questions qui comptent. Celles et ceux, le compte est bon. Et au Scrabble, c'est vrai ça, au Scrabble, est-ce qu'on pourra faire de l'écriture inclusive? Bonne question. Mmh. Est-ce qu'on peut utiliser la boule noire comme point médian? Amotus, c'est vrai ça. Sauf que dans leur interdiction, il y a aussi les parenthèses qui sont interdites. Ça pourrait foutre en l'air des tonnes de décisions de justice, puisque beaucoup de documents sont rédigés avec né entre parenthèses E. Je suis pas sûr que ça fasse tomber les décisions de justice pour autant. Hein. T'as un maintien de l'applicabilité des décisions. C'est pas parce qu'on interdit a posteriori que c'est rétroactif sur toutes les décisions de justice. La loi est non rétroactive. Bah oui, non, mais évidemment. Oui, non, non, tu peux pas changer rétroactivement tout ce qui fonctionne d'ores et déjà juste avec une loi. Il y a quand même des sécurités juridiques. C'est pas l'avis de Maître Eolas. Ah ouais, Maître Eolas, il dit autre chose? Je vois pas trop. J'ai du mal à imaginer qu'une décision de justice puisse tomber juste parce que son écriture n'est plus conforme à une nouvelle loi qui vient d'être votée. C'est qui Maître Eolas? Maître Eolas est un avocat célèbre sur Twitter. C'est un avocat blogueur. Ouais. Bon, on est bien là. Moi, j'aime bien ces petits streams tranquilles où on prend le temps de discuter. Bon, c'est une FAQ politique. Alors, si vous avez des questions pour essayer de comprendre la politique, je peux essayer de vous aider. J'ai bien dit essayer, hein. J'ai pas la prétention d'y arriver. Mais on peut discuter de tout ce que vous voulez. L'anonymisation des décisions de justice ne les a pas invalidées. Comment est nommé le président de l'Assemblée nationale? Le président de l'Assemblée nationale, il n'est pas nommé, il est élu par les députés. À la majorité simple. Donc il y a des candidats qui se présentent et les députés votent. C'est quoi le planning politique de la fin d'année? La loi immigration et le budget. Comment on devient sénateur? On est élu lors des élections sénatoriales qui ont lieu soit au scrutin majoritaire, soit au scrutin proportionnel, en fonction de la taille du département dans lequel tu es élu. Quelle est la définition du pouvoir exécutif? C'est le pouvoir qui est chargé d'exécuter les lois, qui est représenté en France par le président de la République et la première ministre, ainsi que les membres de son gouvernement. Reprocher à un député d'acheter français avec sa cafetière, n'est-ce pas absurde? Ça, j'ai vu la vidéo de François Ruffin, il s'est fait taper sur les doigts par le déontologue de l'Assemblée nationale parce qu'il a acheté une cafetière trop chère. Le budget de la Sécu, on en est où? Bah, la première partie, la partie recette, a été adoptée par 49.3. Le budget est voté pour l'année 2024 seulement. Ouais. Je me demandais, toi qui as été assistant parlementaire, comment est-ce qu'on devient assistant parlementaire? Moi, j'ai pas été assistant parlementaire, j'ai été collaborateur d'élus en collectivité locale et au gouvernement, mais j'ai jamais bossé au Parlement. Comment est-ce qu'on le devient? Bah, simplement en répondant, enfin en envoyant son CV. On est embauché, il n'y a pas besoin d'être fonctionnaire, il n'y a pas de concours à passer. Est-ce que les préfets font partie de l'exécutif? Non, les préfets font partie de l'administration de l'État et ils représentent l'État dans les territoires, dans les départements en l'occurrence, et dans les régions pour les préfets de région. Il a acheté François Ruffin, pour ceux qui ont raté l'information, mais elle est vraiment pas très importante cette information, hein, je vous en veux pas du tout. François Ruffin, il a acheté une cafetière 344 euros, et le déontologue de l'Assemblée, il a acheté ça avec les frais de mandat de l'Assemblée, et le déontologue lui a tapé sur les doigts en lui disant que ça coûtait trop cher. Que le tarif maximum pour acheter une cafetière quand on est député, c'est 250 euros. Et François Ruffin a répondu qu'il avait acheté exprès une cafetière made in France, que c'est pour ça qu'elle coûtait cher. Est-ce que Darmanin a réformé la justice comme le voulaient les syndicats policiers? Non, Darmanin, il est ministre de l'Intérieur, il n'est pas ministre de la Justice. Dans quelle mesure les médias du service public sont totalement indépendants du pouvoir? Les médias de service public ont dans leur statut et dans leurs règles une indépendance éditoriale vis-à-vis du pouvoir politique. La chef de l'Assemblée nationale s'est déplacée en Israël. Est-ce que ce déplacement est personnel ou organisé par l'Assemblée nationale? C'est organisé par l'Assemblée nationale. C'est vrai que c'est plutôt rare que les chefs d'État se déplacent à l'étranger, que les chefs de, que, pardon, que les présidents de l'Assemblée nationale se déplacent à l'étranger. Mais Yael Braun-Pivet, elle s'est rendue à Kiev, elle s'est rendue en Israël également. Et c'est effectivement dans le cadre de sa mission de représentation de l'Assemblée nationale. Elle est venue dire la solidarité de l'Assemblée nationale. 344 euros pour une cafetière, c'est loin d'être cher, surtout pour du made in France. Je sais pas, je me rends pas compte. Je me rends pas compte combien ça coûte une cafetière. Ça dépend du modèle, sans doute. C'est quoi ton modèle de machine à café? Moi, c'est une De'Longhi. Hop, c'est la De'Longhi. Voilà, ma cafetière à moi, c'est celle-là. Avec du café en grain. J'en suis très content. Elle coûte 300 balles. Putain, je l'ai payé si cher que ça? Ouais, faut croire. C'est celle que tu vas m'offrir d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ouais. Belle bête en même temps. Ah, c'est une très très bonne machine à café. Moi, je l'aime bien. Les modèles avec moulin à grains intégrés, c'est dans cette gamme de prix en effet. Bah ouais, bah écoute, je le découvre. C'est une cafetière personnelle ou une cafetière pour l'Assemblée qu'il a achetée? C'est pour l'Assemblée, pour son bureau. Est-ce qu'elle est made in France? Je sais pas du tout si elle est made in France, ma cafetière. Je pense pas. De'Longhi, c'est pas français, ça. Est-ce qu'il y a une page Wikipédia? Le groupe De'Longhi est une entreprise italienne produisant des appareils électroménagers et notamment connue pour ses machines à café et climatiseurs. Le groupe De'Longhi comprend la marque De'Longhi, Kenwood et Braun. Le siège de la société est implanté à Trévise, en Vénétie, dans le nord-est de la péninsule italienne. Voilà. On a la réponse. C'est italien. Et bah bravo les Italiens pour ces très très bonnes machines à café. C'est italien fabriqué en Chine, ça j'en sais rien. Je sais pas du tout. Est-ce que ça vit longtemps ces cafetières qui broient? Si tu les entretiens bien, ouais. Si tu les entretiens mieux que moi, ouais. Faut faire des détartrages réguliers. La phrase de Macron en faveur de l'interdiction de l'écriture inclusive n'est-elle pas plutôt une monnaie d'échange en vue du texte sur l'immigration plutôt qu'une conviction profonde? Moi, je pense qu'Emmanuel Macron a une conviction profonde anti-écriture inclusive. Oui, ça, je pense qu'il est sincère quand il dit qu'il n'aime pas l'écriture inclusive. Après, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Est-ce que c'est vraiment une monnaie d'échange vis-à-vis de la loi immigration? Je pense pas. Je pense que les sénateurs, ils sont pas aussi cons que ça. Je pense, hein. Où est-ce que t'as trouvé ton sweat? Je sais plus du tout. Il y a une étiquette? Non, je sais pas, il n'y a pas d'étiquette, je sais pas. Je sais pas du tout. Pas nouveau que Macron est bien conservateur, il n'y a qu'à voir de qui il s'entoure. Ah, Macron, il est plus ou moins conservateur. Ça dépend des sujets, hein, parce que Macron, il est pour la loi sur la fin de vie, il est pour le mariage homosexuel, il est pour la PMA. Macron est moins conservateur que les Républicains, par exemple. Après, bon, il est contre l'écriture inclusive, qui effectivement est plutôt conservateur, voire réac. Est-ce que les politiques ont fêté Halloween? Je sais pas du tout. Pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution, est-ce que tu penses que ça peut être adopté? Moi, je pense que ça peut être adopté. Après, la question, c'est est-ce que la Constitution sera modifiée avec seulement l'IVG dedans? Je pense pas. Est-ce que tu peux définir réac? Être réactionnaire, c'est vouloir revenir à un état précédent. De l'ordre établi. Être conservateur, c'est vouloir conserver ce qu'on a. Être réac, c'est vouloir retrouver ce qu'on n'a plus. Voilà, on va le dire comme ça. On va le dire à peu près comme ça. Donc, les réacs, c'est ceux qui disent c'était mieux avant. C'est ceux qui veulent le retour de l'uniforme à l'école, par exemple. Quand bien même l'uniforme n'a jamais existé à l'école. Le retour à, voilà. Le retour à un état en amont. C'est ça, être réactionnaire. Est-ce que la retraite à 60 ans, c'est réac? Ah bah peut-être que le jour où il y aura un président de la République qui voudra remettre la retraite à 60 ans, il se fera traiter de réactionnaire. Peut-être. Si un jour on revient à la monarchie, les démocrates seront des réacs. Bonne question. Très bonne question. Lors des questions au gouvernement, est-ce que les ministres ont les questions avant la séance? Les réponses sont souvent très fournies en chiffres. Alors, je vais t'expliquer. Les questions au gouvernement, elles sont posées par des députés qui ont la liberté, s'ils le souhaitent, de transmettre en amont de la séance leurs questions ou alors juste le sujet de leurs questions au gouvernement. Mais les députés ne sont pas obligés de le faire. Les députés sont libres de le faire s'ils le souhaitent. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Pour ceux qui le font, il y en a qui le font. Bah c'est parce que ce sont des députés qui soutiennent le gouvernement, par exemple. Quand tu soutiens le gouvernement, t'as pas envie de le piéger avec une question qu'il n'a pas eu le temps de préparer. Donc tu lui donnes en amont ta question. Ensuite, tu peux être un opposant au gouvernement et quand même donner ta question au gouvernement, non pas pour les aider, mais parce que tu veux avoir une réponse précise. Mais tu peux aussi être opposé au gouvernement et dire, bah, je les emmerde, le gouvernement, ils n'auront pas ma question avant. Ils se démerdent. Mais pour autant, du côté du gouvernement, le gouvernement, du coup, il débute la séance, il a le sujet de quelques-unes des questions. Pas toutes, mais quelques-unes. Est-ce que pour autant le gouvernement, ça l'empêche de préparer les autres questions? Bah non, le gouvernement, il peut deviner les questions qui vont lui être posées. C'est pas très difficile, hein. C'est pas très très difficile de deviner quels sont les sujets qui vont être abordés par tel député. Si t'as le député d'une circonscription dans laquelle il y a eu, je sais pas moi, une tempête, un désastre naturel, un truc comme ça, bah tu peux te douter qu'on va te poser une question là-dessus. Donc tu prépares une fiche. Les ministres, ils ont des fiches de révision. Ils ont des, enfin, c'est pas des fiches de révision, ils ont des fiches qui leur sont faites par leurs collaborateurs sur tous les sujets d'actualité. Et il y a des trucs à répondre sur tous les sujets d'actualité. C'est pour ça que les ministres, ils ont souvent des fiches et ils lisent des réponses, parce que c'est des réponses qui ont été préparées. Tiens, au cas où une question t'est posée, je t'ai préparé une fiche. Et du coup, ils ont toutes leurs fiches comme ça, ils sont prêts à répondre. Comment est-ce qu'on réforme la Constitution? Il faut l'Assemblée et le Sénat pour ou pas forcément? Pas forcément, ça peut être par référendum également. Est-ce que tu penses que Trump va se représenter? Ah oui. Je vois pas pourquoi il se représenterait pas. Est-ce que c'est ce que tu faisais avec Marisol Touraine? Non, moi j'écrivais ses discours, mais j'écrivais pas les fiches QAG. Les fiches QAG, elles étaient écrites par Gabriel Attal et ou par le ministère chargé des relations avec le Parlement, qui préparait des fiches pour tous les ministres. Moi, j'étais vraiment sur les sujets santé et affaires sociales. T'as été collègue d'Attal? Ouais. Ouais, j'étais collègue de Gabriel Attal. On était tous les deux conseillers au cabinet de Marisol Touraine, qui était ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes. Moi, j'ai bossé en un an, moins d'un an. J'ai fait 300 jours, je crois, un truc comme ça, entre 2014 et 2000, 2013, 2014, non, 2014-2015, pardon. Et donc Gabriel, lui, il était conseiller parlementaire. Moi, j'étais conseiller plume, donc j'écrivais ses discours et interventions. Et donc, on bossait avec Gabrielle sur les discours qu'elle prononçait à l'Assemblée. Il y avait aussi Jérôme Salomon, vous savez, qui a été directeur général de la santé plus tard, qui était bien connu avec le Covid. Bah, Jérôme, c'était un de mes collègues aussi. Est-ce qu'il est sympa, Attal? Bah, oui, Gabriel, il est sympa. Enfin, il est sympa. Il est pas méchant. Après, on n'a pas créé des relations d'amitié profondes avec Gabriel, hein. C'était un collègue de travail, on bossait ensemble sur certains sujets, pas sur tous. Je le croisais pas tant que ça, hein. Il passait quand même beaucoup de temps à l'Assemblée. Pourquoi t'as arrêté? Parce que j'ai voulu me lancer sur Twitch. D'ailleurs, je me suis lancé sur Twitch. À l'été 2015. J'en avais marre de bosser en politique. Il y avait eu les attentats de Charlie Hebdo qui m'avaient beaucoup marqué. Et donc j'ai eu envie de créer un projet utile sur Internet. Tu regrettes? Ah non, je regrette pas, non, je regrette pas du tout. Merci The Roro One pour ton resub, merci Clément, merci Carole Du, merci aussi Sec, merci Martin, merci Labuge pour vos resubs, merci pour vos abonnements. Tu vois, je préfère largement vous remercier pour vos abonnements plutôt que de bosser en politique. Franchement, à choisir. Je n'ai aucun regret. Est-ce que ne pas être médecin pour diriger la santé, c'est un vrai frein? Non, absolument pas. Le ministre de la Santé ne soigne personne, je rappelle. Le ministre de la Santé ne soigne pas les gens. Le ministre de la Santé, il dirige une administration d'État qui s'occupe du système de santé, en lien avec les organismes de la sécurité sociale et de l'assurance maladie. Tu préfères quémander des dons? Ouais, je préfère quémander des dons, comme tu dis, pour financer une émission cool qui s'appelle Backseat. Je préfère largement. Un responsable des ressources humaines qui gère des ingénieurs n'a pas besoin d'avoir un diplôme d'ingé, exactement. C'est comme, faut-il être prof pour être ministre de l'Éducation nationale? Non. Ministre de l'Éducation nationale, il ne donne pas cours. Il n'a pas de classe, il n'a pas d'enfants, il n'a pas d'élèves. Il corrige pas de copies. Est-ce que ne jamais avoir été à l'école publique n'est pas dérangeant pour être un ministre de l'Éducation nationale? Si, 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 ça c'est une critique qu'on peut tout à fait émettre. Un ministre qui n'a fait aucun moment de son éducation dans l'école publique, qui se retrouve à diriger l'école publique, on peut en faire une critique, effectivement, du ministre Gabriel Attal, ça c'est vrai. Avoir exercé une profession médicale dans un établissement de santé, c'est quand même un boost de légitimité aux yeux du public. Non. Non. Le public, il s'attend. Non. Le public, il n'a pas besoin de ça pour juger la légitimité d'un ministre. Papendia, il avait des enfants dans le privé. Ah ouais? Les enfants de Papendia, ils étaient à l'école privée? C'est possible. Ah oui, c'est vrai, si, 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 je me souviens maintenant. Eh ben voilà, pareil. On peut émettre une critique. Après, l'enseignement privé est quand même en contrat avec l'éducation nationale. Oui, c'est le privé sous contrat, oui. Oui, donc d'un certain point de vue. Ça, est-ce que ça annule pour autant la critique? Je sais pas. Est-ce qu'il faut forcément avoir vécu les choses soi-même pour prendre des décisions politiques pertinentes? Pas sûr. Je suis d'accord avec toi. Charles de Gaulle était un militaire. Charles de Gaulle a fait toute sa carrière dans l'armée. Spontanément, on pourrait dire que ça en fait un mauvais président de la République. Bon, le fait est qu'une grande majorité des Français à l'époque n'étaient pas tout à fait d'accord avec moi et considéraient que tu peux être tout à fait président de la République si tu as été militaire. Ça n'empêche pas. Est-ce qu'il ne serait pas mieux pour un ministre d'avoir un minimum d'expérience dans son domaine? Ça peut. Je dis pas, je défends pas la thèse inverse. C'est pas parce que je dis qu'on n'a pas besoin d'avoir été un praticien du métier pour être un ministre en lien avec ce métier que je défends le fait que c'est mieux de n'avoir aucune expérience pour être un bon ministre. Tu vois, c'est quelque part entre les deux. Mais je ne fais pas du fait d'avoir été médecin une condition nécessairement absolue pour être un bon ministre de la Santé. Si t'es bien entouré, pas spécialement. Bah notamment parce qu'on en parlait. Tiens, regarde, c'est exactement la discussion qu'on avait tout à l'heure sur les députés issus de la société civile. Les députés qui n'ont pas fait Sciences Po, les députés qui n'ont pas fait l'ENA, les députés qui viennent de la société civile, qui sont médecins, qui sont artisans, commerçants, agriculteurs, enseignants, ne sont pas spontanément de mauvais députés sous prétexte qu'ils ne connaissent pas par cœur la Constitution de la Ve République. C'est comme si pour être président de la République, il avait fallu être avant. Être avant humain, ouais. Macron veut changer la Constitution. Est-ce qu'il a déjà évoqué la 6e République? Non, Macron ne souhaite pas une 6e République. Il souhaite sans doute modifier la Constitution. Il l'a, je sais pas sans doute, d'ailleurs, il l'a dit. Mais on attend encore le projet de loi constitutionnel qu'il présentera peut-être d'ici la fin de l'été, d'ici l'été prochain, pardon. J'en sais rien. Au bout d'un moment, on veut des gens compétents. Évidemment que l'expérience joue pour qualifier la valeur de quelqu'un. Eh ben non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. La compétence ne se jauge pas spécifiquement à l'expérience dans le métier. Surtout si ton rôle n'est pas de faire le métier en question. Encore une fois, un médecin, un ministre de la Santé ne soigne personne. Il n'a pas de patient. Et le fait de ne pas avoir de compétences médicales n'est pas un frein nécessairement, absolument, éternellement pour être un bon ministre de la Santé. Au demeurant, deuxième question philosophique que je vous invite à réfléchir, est-ce qu'un bon ministre, c'est un ministre qui plaît aux membres de l'administration de son ministère? Est-ce qu'un bon ministre de la Santé, c'est un ministre populaire auprès des médecins? Est-ce que la popularité d'un ministre auprès des médecins est la seule métrique à regarder pour juger de la qualité d'un ministre de la Santé? On peut en discuter, ça aussi. Et j'ai pris l'exemple de la santé comme j'aurais pu prendre l'éducation nationale, comme j'aurais pu prendre la culture, etc. Est-ce qu'un bon ministre de la culture, c'est un ministre populaire auprès des artistes? Bah, peut-être pas. Il y a peut-être d'autres critères à mettre au regard. Ça peut aider, c'est certain. C'est certain que ça peut aider. Mais bon. Et pour vous provoquer un peu, est-ce qu'un bon ministre de l'économie, c'est un ministre populaire auprès des chefs d'entreprise? Ah, là tout de suite, on est d'accord que c'est plus compliqué que ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi être bon? Eh bien, c'est une excellente question. Qu'est-ce que c'est qu'être un bon ministre? Comment est-ce qu'on juge la qualité d'un ministre? Par ailleurs, tiens, pour être un bon ministre, c'est facile. Il suffit de garder ses mains dans ses poches, de ne pas faire de politique. Un ministre qui ne fait pas de réforme, qui bouge rien, qui change rien, qui maintient le statu quo. Après tout, il se met pas en danger. Il n'y a pas de manifestation sous ses fenêtres. Mais est-ce qu'un ministre qui change tout du sol au plafond quand il arrive, est-ce que c'est un meilleur ministre? Bah, pas forcément. Parfois, il y a peu à changer. Parfois, il n'y a pas grand-chose à changer, c'est vrai. Ça vient d'où le nom de garde des Sceaux? Ça vient de la République française. À l'époque, il y avait les Sceaux de la République, donc les Sceaux pour sceller, pour certifier les documents de la République. Et on a confié la charge de garder les Sceaux et de les utiliser au ministre de la Justice. Avant, c'était les Sceaux du roi. Donc le roi, il pouvait sceller des documents avec le Sceau royal, qui imprimait donc, au sens premier du terme, la puissance du roi sur un document. Et ben quand on a fait la Révolution française, on a créé des sceaux républicains et on les a confiés au ministre de la Justice. Voilà. Pourquoi Mélenchon avait demandé d'être Premier ministre? Jean-Luc Mélenchon, après avoir perdu pour la troisième fois une élection présidentielle, a sollicité les électeurs en disant « Élisez-moi Premier ministre », sous-entendu « Faites élire une majorité de députés qui me soutiennent ». Dès lors, non, mais il n'y a pas de dès lors en fait. Non, il n'y a pas de dès lors. Voilà, il a dit aux Français, si vous votez pour une majorité de députés NUPES, alors je serai le Premier ministre et je dirigerai le pays. Voilà. En réalité, les électeurs n'élisent pas le Premier ministre, mais les électeurs élisent la majorité de députés qui ensuite le feront Premier ministre. Donc d'un certain point de vue, il n'avait pas tort. On peut élire un Premier ministre. Indirectement, certes, mais on peut élire un Premier ministre. C'est quoi la mission d'un ministre? Ça dépend du gouvernement. Ça dépend du gouvernement. Tu peux être nommé ministre avec pour ordre de ne rien faire. Tu peux être nommé ministre avec comme mission de réformer. Tu peux être nommé ministre juste pour représenter. Tu peux être nommé ministre pour couper les budgets. Tu peux être ministre pour allonger les budgets. Enfin, tu vois, il y a plein de ministres différents et la différence, elle est d'ordre politique. Macron aurait pu nommer Bompard, par exemple. Bah non, les députés auraient dit non. Du coup, s'il faut être Premier ministre pour diriger le pays, pourquoi se présentait-il au présidentiel? Parce que s'il avait été élu président de la République, quelqu'un d'autre que lui aurait été peut-être nommé Premier ministre, et ça aurait fait ses affaires, puisque le but du jeu, c'était l'application du programme qui s'appelle l'Avenir en commun. Donc qu'il soit à l'Élysée ou à Matignon, dans les deux cas, il aurait appliqué le programme. Est-ce que c'est probable que dans son désir de modifier la Constitution, Macron veuille changer la règle des deux mandats présidentiels consécutifs? C'est possible. Probable, je ne sais pas. C'est possible, puisque en août dernier, Emmanuel Macron avait dénoncé cette mesure de la Constitution en disant que c'était une funeste connerie. Fin de citation. Comment c'est pas le président qui nomme le Premier ministre? À quel moment interviennent les députés? Le président de la République nomme le Premier ministre en tenant compte de l'équilibre des forces à l'Assemblée nationale. Le président de la République ne peut pas nommer qui il veut Premier ministre. Soit le président de la République a une majorité avec lui de députés qui le soutiennent, donc il peut nommer à peu près qui il veut Premier ministre, parce que ses députés suivront. Soit le président de la République se fait imposer un Premier ministre par une majorité alternative à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle une cohabitation. En 1986, François Mitterrand a nommé Jacques Chirac Premier ministre. Croyez-moi, c'était pas par plaisir. François Mitterrand aurait adoré nommer n'importe qui d'autre que Jacques Chirac Premier ministre, mais le fait est que les Français ont voté pour une majorité RPR. Donc c'était qui le patron des RPR? C'était Jacques Chirac, donc Jacques Chirac est devenu Premier ministre. Voilà. Est-ce qu'un Premier ministre peut aller à l'encontre des envies d'un président? Oui, s'il est soutenu par une majorité de députés. Par exemple, Jacques Chirac. Autant te dire que rien de ce que proposait Jacques Chirac n'allait dans le sens du président de la République. Et pareil, en 97, dans l'autre sens, avec Jospin, qui est nommé Premier ministre par Jacques Chirac, parce que Jacques Chirac est contraint et forcé par les électeurs. Mélenchon était le patron de la NUPES. Oui, Jean-Luc Mélenchon était le patron de la NUPES. L'est-il toujours? Ah! Ah, la bonne question! Ah, j'ai plus de barbe. Si la gauche finissait par réussir à se faire élire à la présidentielle, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une alliance de centre et droite pour faire que Macron se fasse élire Premier ministre? C'est possible. C'est possible. Regardez. Scénario virtuel. Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République. Un mois plus tard, on organise des élections législatives et Jean-Luc Mélenchon perd les élections législatives puisque les Français décident d'élire une grosse majorité de députés macronistes. Qu'est-ce qu'il fait Jean-Luc Mélenchon? Bah, il n'a pas le choix. Il nomme Emmanuel Macron Premier ministre. Et on se retrouve avec Emmanuel Macron, Premier ministre, qui continue à appliquer sa politique. Y a-t-il des restrictions aux conditions de la dissolution de l'Assemblée nationale? Ouais, il y a des restrictions sur la dissolution, notamment tu ne peux pas dissoudre deux fois de suite la même année, par exemple, et tu ne peux pas dissoudre un an avant les élections législatives, régulières. Après, je crois que le président de la République doit consulter le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Je crois. Est-ce qu'il a le droit de dissoudre en direct? C'est-à-dire, en direct. Sur Twitch?
Oui.
Le Pen présidente et Mélenchon Premier ministre, le gros bordel aussi. Ouais, t'imagines? Et pourquoi Macron aurait dû forcément nommer Mélenchon? Il aurait pu nommer quelqu'un d'autre de la NUPES. Non, parce que c'est la volonté de la NUPES qui s'applique. C'est pas la volonté de Macron. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le président se fait imposer un Premier ministre par une majorité qui souhaite que ce soit Mélenchon. Donc ça aurait été Mélenchon. L'autre manière de le dire, c'est que le président de la République demande aux députés, bon, qui vous voulez comme Premier ministre? Et les députés lui répondent qui ils veulent. Là, en l'occurrence, si la NUPES avait été majoritaire encore une fois, la NUPES aurait répondu Jean-Luc Mélenchon. Et donc le président aurait dit, très bien, Jean-Luc Mélenchon, j'ai pas le choix. Puisque c'est votre volonté, et puisque c'est la volonté de la majorité qui l'emporte, alors c'est comme ça et pas autrement. Pas vraiment imposer du coup comment contraindre un président d'institution. Non, juste remporter les élections législatives. Avec une majorité de députés. Une majorité de députés qui soutiennent un gouvernement. La page KissKissBankBank de Baxit est actuellement down. Ouais, je sais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. On m'a déjà prévenu tout à l'heure, ça me fait chier. Ça me fait chier. Bon, c'est la première fois que ça arrive, donc peut-être que ce n'est que temporaire. Mais effectivement, la page KissKissBankBank, elle est down. Il y a donc un moment où une motion de censure peut passer sans que le président puisse répondre par une dissolution. Oui, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Une motion de censure n'impose pas automatiquement une dissolution. Si une motion de censure est adoptée, ça veut dire qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour adopter cette motion de censure. Donc le président de la République, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se tourne vers cette majorité, il leur dit très bien. Vous êtes majoritaire, vous êtes la nouvelle majorité de l'Assemblée nationale, félicitations. Qui voulez-vous comme Premier ministre? Dites-moi. Puisque c'est obligatoirement. Enfin, parce que c'est le fait naturel du fait majoritaire fait que. Vous avez, voilà. Et si les députés n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un nom de Premier ministre, alors on est dans une crise politique. Et comment est-ce qu'on se sort d'une crise politique? Par des élections. Et donc, le président de la République, constatant qu'il ne parvient pas à nommer un nouveau gouvernement soutenu par une majorité, dissout l'Assemblée nationale, et c'est les Français qui retournent voter. Si le président nomme un Premier ministre que la majorité ne souhaite pas, alors le Premier ministre n'obtient pas le vote de confiance, donc le président n'a pas le choix du Premier ministre. Très bien dit. Le The Forain, tu as parfaitement raison. Ça, c'est la théorie. C'est pas du tout la théorie. Non, non, c'est pas du tout la théorie, c'est la pratique. Est-ce que la dissolution annule la motion de censure? Bah non. Mais non, puisque c'est une conséquence directe. Avec Macron, il trouve des astuces pour passer à côté. Borne n'a jamais eu la confiance. Non, Borne, elle a eu mieux que ça, elle a survécu à la défiance. Il y avait un député, je crois que c'était Hervé Marseille, qui disait que Borne bénéficie de l'onction de censure. Je trouve ça très joli comme expression. Et ça désigne assez bien, effectivement, le paradoxe dans lequel est Elisabeth Borne. Elisabeth Borne n'a pas de majorité pour gouverner, mais il n'y a pas non plus de majorité alternative. Donc, de facto, c'est elle qui gouverne. Merci, Ricky Muscle. Merci, Chefan. Merci, Badstorm. Merci, The Rorowan. Merci, Clément. Pour vos resubs, merci à vous. Est-ce qu'une motion de censure pourrait passer avant la fin du mandat ou c'est peu probable? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. La dernière fois qu'on a eu une motion de censure qui a failli passer, elle a échoué à 8 voix seulement. C'est ricrac. C'est vraiment ricrac. Donc ça pourrait, ouais. Si les Républicains déposent une motion de censure dans un mois, on est d'accord que pour Macron, c'est le moment idéal pour dissoudre, car la NUPES est divisée et que le RN n'aura jamais de majorité. Le RN n'aura jamais de majorité, tu t'avances un peu vite, hein. Je suis pas sûr qu'Emmanuel Macron ait aussi confiance que ça. Qu'est-ce que tu penses de l'inscription de l'IVG dans la Constitution? À titre personnel, je trouve ça très bien. Pourquoi la situation actuelle, pas de fait majoritaire ni cohabitation, n'arrive que maintenant? Parce que les Français ont le sens de l'humour. Et c'est à moitié une blague, hein, ce que je te réponds. C'est que les Français ont voté pour une absence de majorité à l'Assemblée nationale. Ce qu'ils n'avaient jamais fait jusqu'à présent. Depuis le début de la Ve République, il y a toujours eu une majorité à l'Assemblée nationale. À une exception, c'était en 88 avec Michel Rocard. Michel Rocard, il avait une majorité relative et il faisait un peu comme Elisabeth Borne, même si c'était très différent à l'époque. Il faisait passer ses lois par des 49-3. Mais ça n'a pas duré très longtemps. S'il y a motion de censure, Macron pourrait aussi tenter de recréer une majorité en négociant par exemple un virage plus à droite avec LR. Absolument. Tu as parfaitement raison. Oui, tu as parfaitement raison. S'il y a une motion de censure qui est adoptée, Macron pourrait tenter de sauver les meubles en allant négocier une cohabitation bizarre avec les Républicains. Mais encore faut-il que les députés de sa majorité soient d'accord. Donc c'est un calcul risqué que doit faire Macron dans ce cas-là. Il doit estimer qu'il a plus intérêt à rallier la majorité des Républicains au risque de perdre une partie de sa majorité qui, du coup, quitterait la majorité. La fameuse jambe gauche. Quelles sont les possibilités pour le président d'imposer son choix de Premier ministre lorsque la majorité n'est pas de son camp? Eh bien, elles sont faibles, ces majorités. Elles sont faibles, ces possibilités. Donc, je le redis, en cas d'absence de majorité du président de la République, le président de la République n'a pas vraiment la position de force pour imposer, comme tu dis, un nom. Donc, voilà, il peut pas. Est-ce que tu penses que Macron réfléchit à ce qu'il fait ou qu'il est juste en roue libre? Non, mais Macron sait très bien ce qu'il fait. Macron, il n'a pas besoin de. Je pense pas que ce soit une bonne analyse politique que de considérer Emmanuel Macron comme un gros con. Emmanuel Macron sait très bien ce qu'il fait. Et d'ailleurs, il dit ce qu'il fait. Il suffit de l'écouter. Il explique son programme, il explique son projet. Il en fait la pédagogie à chaque fois qu'il a l'occasion de le faire. Il n'est pas en roue libre, hein, Macron. Qui est quand même très silencieuse, la jambe gauche du coup, est-ce qu'il partirait vraiment? Bah, c'est une bonne question, je ne sais pas. Ça ne nous empêchera pas de le penser. Je suis pas. Si vous voulez vous opposer à Emmanuel Macron, vous avez parfaitement le droit de le faire, hein, c'est normal, je me permets de vous suggérer de ne pas considérer Macron à la légère. Le considérer comme un imbécile qui ne sait pas ce qu'il fait ne me semble pas être une analyse à même de vous aider à vous opposer. Je pense qu'il faut le prendre au sérieux, Macron. Il vaut mieux se méfier. Pompili, elle sait se faire entendre quand elle n'est pas d'accord. Ouais, et elle sait obtenir des trucs. Au même titre que penser que Poutine est fou. Ouais, pareil. Comme Trump. Ouais, pareil, comme Trump. Je n'aime pas du tout Macron, mais oui, il n'est pas à considérer comme un égaré. Ah non, il n'est pas égaré, Macron. Il sait très très bien où il va. Macron fait son programme, après un programme qui peut ne pas plaire, mais il fait son programme. Oui, exactement. Non, je suis d'accord avec toi. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Macron, moi, quand je l'écoute, en interview, en allocution, etc., il est très clair sur ce qu'il veut, sur les moyens pour y parvenir. Il applique son programme. Un programme qu'on peut tout à fait ne pas aimer. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il respecte vraiment son programme? Bah écoute, il a réformé les retraites, par exemple. Il a réformé les retraites, il a réformé le RSA, il va bientôt réformer l'immigration. Ouais, bref, tout ce qu'il avait dit qu'il ferait, pour l'instant, il le fait, hein. Pas les annonces de gauche. Bah si, il a ouvert un sommet social sur les négociations sur les bas salaires. Mais bon, c'est pas ouf. L'IVG dans la Constitution, il est en train de le faire. Alors, Macron ne vous prend pas à revers, hein. Macron, vous aurait menti s'il vous avait dit, vous inquiétez pas, je vais mettre en place l'avenir en commun. Non, il l'a jamais dit. Il s'est jamais engagé à ça. On m'aurait menti. Que sait-on vraiment sur la potentielle réforme de l'intermittence? Moi, rien. Moi, je sais pas. Les gens disent jamais les programmes politiques lors des présidentielles. Eh ben, explique-les leur alors. Il n'a jamais dit qu'il était de gauche d'ailleurs. Ah non, 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 non. Non, il a bien fait. Il a bien fait. Quand il dit que le quinquennat serait écologique ou ne sera pas, est-ce que c'est un mensonge? Non, c'est sa manière à lui de penser l'écologie. On peut être en désaccord sur le fond, mais lui, il a une manière à lui de penser l'écologie. L'écologie qui ne doit pas être l'ennemi de la croissance, l'écologie qui ne doit pas empêcher la consommation, l'écologie qui ne doit pas être... c'est quoi le mot déjà? Punitive? C'est son écologie à lui, quoi. Il a quand même affirmé ce vote m'oblige le soir de sa réélection. Et bah chacun y a vu ce qu'il voulait y voir. Attention, attention à ne pas prêter à Macron des promesses qu'il n'a pas faites. Ce vote m'oblige, ça veut dire c'est moi qui décide de ce à quoi ça m'oblige. Bref, une écologie qui n'est pas écologique à mon avis. Exactement, à ton avis. C'est comme le je vous ai compris de Gaulle, chacun y entend ce qu'il veut. Exactement, c'est exactement pareil. C'est comme le je vous ai compris de Gaulle à Alger. À qui est-ce qu'il s'adressait quand il a dit ça? Il s'adressait aux Algériens, il s'adressait aux Français d'Algérie. Attention à ne pas se sentir trahi par non-respect de promesses qui en fait n'ont jamais été faites ou jamais été considérées comme telles. Vive l'ambiguïté, ouais. C'est pratique l'ambiguïté pour gouverner. Hein. Ah! Ça, pour être pratique, c'est pratique. Disons que la Macronie n'est obligée à rien avant que l'ambiguïté. Ouais, et disons que c'est applicable à tous les autres aussi. Je vais y aller, les amis. Je vais y aller, les amis. Il me reste à vous remercier d'avoir été là pendant ce stream. C'était chouette. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve pas demain. Alors, je rappelle que demain, il n'y a pas Backseat. Demain, il n'y a pas Backseat. À la place, il y a un live privé réservé aux donateurs de Backseat, comme on s'y était engagé. Une fois par mois, il y aura un live privé de débrief de Backseat, l'occasion pour les donateurs qui soutiennent l'émission de découvrir les visages et d'entendre les voix des personnes qui réalisent cette belle émission. Si vous voulez assister à ce live privé demain, il vous reste à soutenir l'émission Backseat, vous aussi en faisant un don sur la page KissKissBankBank. Et nous, on fera le live du coup privé demain. Donc pas de live sur ma chaîne Twitch demain. On se retrouve vendredi pour un live. Je ne sais pas encore exactement ce qu'on fera. Je verrai. Mais voilà, merci à vous, c'était cool. Je vous souhaite une bonne suite d'après-midi. N'hésitez pas à soutenir Backseat. Et vous pouvez aussi prendre vos places pour les prochaines émissions Backseat. On a d'ores et déjà mis les places en vente pour toutes les émissions d'ici à la fin de l'année 2023. Donc profitez-en si vous savez que vous êtes de passage à Paris et que vous êtes dispo un jeudi soir et que vous voulez venir assister à l'émission. Prenez vos places sur le WizEvent, point d'exclamation place dans le chat. Je vous fais des bisous. Merci à tous. Ciao, bye bye.